Alors, on s'est donné le quart d'heure académique. Les collègues vont nous rejoindre petit à petit. On va essayer de ne pas trop décaler l'intervention de Bruno de Vauchelles. Et pour ceux et celles qui en auront envie, il y a du café qui passe. Voilà. Mais maintenant, il faudrait qu'on regagne chacun ses places. Allô, allô. Ok. On y va? Alors, on l'a bien vu ce matin dans les interventions des uns et des autres, que l'irruption du numérique dans la classe et dans les pratiques pédagogiques interrogeait à la fois les guides pratiques, posait des questions de gouvernance, de ce que les acteurs sont amenés à accepter comme risque ou non, et certains, on l'a bien vu, se raidissent complètement, pose aussi la question de comment nos organisations fonctionnent. Nous avons demandé à Bruno de Vauchelles, qui tient le blog Veille et Analysis, voilà, qui est un blog remarqué, suivi, qui est intervenu dernièrement au congrès de la FAE à Lille, autour du numérique et qui se plaît régulièrement à démonter des idées reçues. Je pense notamment au fait que, oui, on peut mettre en place du travail collaboratif en classe prépa. Voilà, c'est tout à fait possible que des élèves de prépa travaillent ensemble et non pas de manière systématiquement concurrentielle. Donc Bruno de Vauchelles qui a écrit « Comment le numérique transforme les lieux de savoir ». Alors petit livre qui n'est pas destiné qu'à l'éducation nationale, qui ne prend pas en compte que l'éducation nationale, mais ce qui nous permet justement à nous de prendre du recul et à nous repositionner. Voilà, donc Bruno va intervenir cet après-midi sur l'enseignement de l'histoire, de la géographie, des lettres à l'ère du numérique. Puisque si ma mémoire est bonne, vous êtes un ancien PLP Lettres Histoire.
Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout le monde, donc je le fais maintenant officiellement. Je suis tombé dedans quand j'étais petit aussi, et dans les technologies, et dans l'enseignement au lycée professionnel que j'avais choisi de faire dans une vie antérieure, avant de devenir formateur. Puis, très récemment, je suis ce qu'on appelle un jeune enseignant-chercheur, puisque ça fait juste un an et demi que j'ai rejoint l'université à temps presque complet, où j'interviens donc à l'université de Poitiers, à temps partiel, où je suis professeur associé, et je suis membre du laboratoire Techné, qui est un laboratoire qui s'occupe de travailler sur l'appropriation et les usages du numérique en éducation. Éducation étant pris, alors je salue ce matin le schéma de notre collègue Lucas, qui avait bien mis en fait qu'il y avait éducation et enseignement, et que l'éducation est bien plus large que l'enseignement, puisque nous nous occupons aussi bien de l'enseignement supérieur, de la formation tout au long de la vie, qu'aussi parfois de problématiques liées aux tout petits, c'est-à-dire à l'éducation familiale, qui en fait partie aussi des éléments, ce qu'on appelle l'éducation, c'est cet ensemble-là. Voilà. Par ailleurs, par rapport à un certain nombre d'écrits, effectivement, je tiens un blog qui est maintenant qui arrive dans sa dixième année, mais ça fait en fait, j'avais commencé en 97 avec une liste de diffusion au départ. Et puis, par ailleurs, je suis un des cofondateurs du Café Pédagogique et j'en suis aujourd'hui un des rédacteurs chaque semaine. D'ailleurs, ce matin, le billet est encore sorti. J'essaye de tenir la cadence. C'est pas facile, mais on y arrive de temps en temps. Donc voilà. Donc vous pouvez me relire et probablement ceux qui m'ont déjà lu ne retrouveront que des redites. Mais j'ai essayé aujourd'hui. Aujourd'hui, par rapport à la rencontre que nous avions eue avec M. Lara et avec d'autres collègues, justement au congrès de la FAE, et puis après on a eu l'occasion de se revoir quelques-uns, et c'est toujours un grand plaisir, alors je disais, de revoir des gens qu'on connaît qu'en ligne, Ghislain Dominet, on se connaît en ligne, mais on ne s'était jamais rencontrés, donc c'est toujours une joie de rencontrer les gens, et puis de découvrir aussi des visages inconnus qu'on espère après ça, continuer avec lesquels on espère échanger après, ça fait partie aussi de l'état d'esprit. Alors l'état d'esprit dans lequel je suis est un état d'esprit, comme vous l'imaginez bien, qui est un état d'esprit de partage au maximum, donc il va de soi que ce que vous allez voir là, c'est un support d'abord qui n'est pas très très bon, techniquement, on me dira que ce n'est pas des magnifiques choses, ça se dit j'ai écrit beaucoup de choses pour que les gens qui sont dans la salle n'aient pas à se dire, ah, faut pas que j'oublie, vous avez le droit de le prendre, vous l'utilisez, vous faites ce que vous voulez avec, du moment que vous respectez qu'il y a quelqu'un qui l'a écrit un jour et que voilà, c'est la règle, j'irais de base, mais par contre je le diffuse, hein. Je diffuse. Voilà, on aura l'occasion d'échanger, j'ai essayé de me trouver quand même un temps pour échanger, donc je vais aller un petit peu vite, alors je suis bavard, je cause vite, donc je vais essayer de me ralentir, j'ai mis beaucoup de diapos, donc voilà, c'est un... Bon, et voilà, on y va. Alors, il y a un grand nombre de ressources, supports et séquences disponibles en ligne dans vos différentes disciplines. C'est incroyable ce qu'il y a en ligne. Moi, quand on me dit que l'innovation et que les pratiques ne se diffusent pas, je dis, mais alors les gens, ils ne vont pas voir. Ben non, les gens ne vont pas voir. Enfin, moi, j'étais aussi à l'origine de Weblettre, à l'époque où ça se montait, et quand vous voyez le nombre de séances qu'il y a et de séquences qu'il y a sur Weblettre, vous allez sur le site académique de Lille, sur l'histoire-géographie que vous animez les uns les autres, c'est remarquable, il y a des choses tout à fait étonnantes, on a parlé d'EduGéo, Géoportail. Enfin, quand on regarde ce qu'il y a en ligne, on se dit, mais pourquoi ils ne font pas? Pourquoi ils ne font pas? Pourquoi ils ne font pas ce qu'il y a dit dedans, des fois? Pourquoi ils n'essayent pas? Bon. Donc, je ne vais pas réinventer la roue, je ne vais pas vous inventer des choses qui existent déjà. Ça existe, mais encore faut-il que les gens prennent le soin d'y aller. Pas qu'ils le connaissent, parce qu'ils le connaissent très souvent. Ou disons, ils le connaissent quand ils en ont besoin. Ils le connaissent quand ils en ont besoin. Et c'est là qu'il faudra travailler d'ailleurs sur le secret de l'alcôve, c'est-à-dire comment nous préparons nos cours et quelle place nous donnons aux ressources numériques dans la préparation de nos cours. Ce ne sera pas inintéressant d'en reparler. Et pourtant, nous continuons de questionner le comment faire, en particulier du fait du développement numérique. Manifestement, le numérique gêne. Le numérique gêne dans le monde scolaire. Il ne gêne pas les individus, il gêne globalement le fonctionnement scolaire. Il trouble le fonctionnement scolaire, ça fait 30 ans que c'est comme ça, ça continue, et les tablettes encore plus que les TO7 et les MO5 de mon jeune temps. Mettre en perspective pratique d'enseignement, usage du numérique, culture à l'ère du numérique, c'est le projet que je vous propose, c'est essayer d'articuler tous ces éléments-là. Alors pour le faire, nous aurons un certain nombre d'étapes. On va d'abord, alors j'ai choisi d'entrer par les contenus disciplinaires, par la question des contenus disciplinaires. Alors évidemment, c'est loin d'être exhaustif, je n'ai pas, alors je dis toujours, je suis un très très mauvais professeur de lettres histoire. Pourquoi? Parce que j'ai eu le concours. Mais je n'ai eu que le concours. Enfin, je veux dire, voilà, j'étais certifié, etc., etc. Le problème, c'est que je n'ai jamais fait d'études en lettres et en histoire. J'ai fait des études en sociologie et en psychologie, au départ. Enfin, ça, j'ai refait des études à plus tard. Mais... Donc, ce qui est assez troublant, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes sur l'enseignement. Ceci dit, mes élèves n'ont pas l'air trop s'en plaindre, et les résultats de mes élèves n'étaient pas si catastrophiques que ça. Donc, je suppose que j'ai travaillé. Peut-être c'est ça qu'il faudrait faire, finalement. Alors... Deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va parler... Oui, c'est en travaillant que finalement on progresse. Sinon, effectivement... Bon, alors, deuxième chose, après ça, on va passer de la didactique à la pédagogie, du coup, du disciplinaire au pédagogique. Parce qu'effectivement, trop souvent, on nous parle... Alors, j'aurais égorgé, mais je suis très poli, et il était à côté de moi ce jour-là, Monsieur Fourgous, quand il parlait de pédagogie numérique. Pourquoi je l'aurais égorgé? Parce qu'il n'y a pas de pédagogie numérique. Ça n'existe pas. Même s'il en rêve, même si Véronique Saguet, sa collègue qui travaillait avec lui, prof de SVT, milite pour ça, mais bon, elle, depuis on a discuté le coup sur ces questions-là, elle a compris le point de vue que j'avais. L'autre jour, j'étais dans au CRDP à Nancy, j'ai effrayé un peu le Dan qui était là, parce que j'ai absolument pas parlé de technique, je n'ai parlé que de pédagogie quasiment, mais de pédagogie influencée par le numérique. J'ai un parti pris là-dessus, c'est qu'on entre d'abord par la discipline, par la pédagogie, pas par le numérique. C'est pourquoi mon exposé commence comme ça. Ensuite, il y a un autre point important, c'est qu'il y a un environnement social qui est en mouvement. Cet environnement social, il faut le prendre en compte. Et puis, il y a une dimension culturelle qui touche les jeunes, et qui est, pas seulement les jeunes, mais qui touche aussi les jeunes, et qui est liée au numérique. Et puis, il y a les objets techniques. Alors, on parlera effectivement de TBI, de machin comme ça, on va en parler. Et puis, on se terminera sur les questions vives. Non, parce qu'il faut quand même en parler, parce qu'on me dit, ouais, tu n'en parles jamais. Si, si, moi j'en parle. Vous allez voir pourquoi. Alors, quelques principes initiaux. Excusez-moi, c'est pas très... J'aurais pu peaufiner. J'ai essayé de peaufiner certaines parties. Celle-là, je ne l'ai pas trop peaufinée. En tout cas, quelques principes initiaux. D'abord, la question de l'accès aux ressources. Vous l'avez tous dit, et je vous l'ai dit en préliminaire, il y a des ressources partout. Et d'ailleurs, quand on regarde les sites d'histoire-géographie en particulier, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. C'est une mine d'or, ce Internet. Être prof d'histoire-géo aujourd'hui, c'est quand même autre chose que ce que j'ai fait moi quand j'étais jeune prof, où je me battais entre un manuel de Belin et un manuel de Nathan, ou je ne sais plus trop quoi, et dans lesquels en plus les fleuves sur l'URSS à l'époque, parce qu'il y a encore l'URSS, n'étaient même pas au même endroit. C'est là que j'ai découvert que le communisme déplaçait les montagnes et les fleuves, c'était partie des choses. Voilà, donc quand on a des ressources, il faut aussi les vérifier, sauf que quand à l'époque on avait que les manuels scolaires, alors je n'allais pas faire un truc à la bibliothèque, j'étais dans le fin fond de la Bretagne, bon... En tout cas, accès aux ressources, qui demande encadrement, guidage, ciblage, recherche. Deuxième élément, la compréhension des ressources. Ça, je m'adresse plus particulièrement aux gens qui travaillent avec des élèves qui sont en difficulté d'apprentissage. Pas en difficulté scolaire, en difficulté d'apprentissage. Ce qui pour moi est un peu différent. Ce sont des gens qui ont globalement un problème de compréhension de ce qui se passe autour d'eux. Et là, je pense qu'on a un travail énorme à faire sur la notion de compréhension. Identification, classification, hiérarchisation, présentation. Troisième élément, la manipulation des ressources. 80% des choses que vous connaissez aujourd'hui, vous ne les avez pas apprises dans votre formation initiale, mais vous les avez apprises après. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de choses que vous avez apprises pendant votre formation initiale, vous ne les avez pas manipulées, vous ne les avez pas utilisées, donc vous les avez laissées de côté, soigneusement. Si je vous parle, par exemple, d'entre vous, des fonctions affines, d'une dérivée, de trucs comme ça, à mon avis, on ne doit pas être loin de l'oubli, de l'abandon, en tout cas, de la mise de côté. En tout cas, moi, c'est mon cas. Hein. C'est mon cas. J'ai à peu près conservé, comme mes élèves de CAP à l'époque, puisque à l'époque, c'était CAP en 3 ans après la 5e, j'ai bien conservé, parce que en plus, j'étais un hôtelleriste très important. Je sais une française, lettre histoire, hein, mais c'était la proportionnalité, donc la règle de 3. Ça, c'est très important. Ça, j'ai acquis. Je l'ai gardé. Parce que je l'ai manipulé, parce que je l'ai utilisé, parce que quand il fallait faire des découpages, des machins comme ça avec les élèves, bon. Alors, quatrième point, la construction des connaissances. Comment se construisent les connaissances et comment on aide les personnes qui nous entourent à construire des connaissances. C'est incroyable comme quoi on pense que les connaissances, on les reçoit et puis on les... On les construit. Alors certes, je suis constructiviste de ce côté-là, mais pas au sens de Piaget, mais au sens plus général de toute façon, la connaissance, c'est un travail intellectuel qui suppose de la manipulation, de repérer des concepts, d'analyser des contextes, d'élaborer une production, d'où toutes les pédagogies de production dont on a parlé ce matin, moi, me paraissent évidemment des pédagogies fortement porteuses de construction de connaissances. De construction de connaissances. Et je pense que le processus de construction de connaissances est au moins aussi important que le processus de mémorisation-restitution. Et puis enfin, il y a la mise en œuvre des connaissances, hein, c'est donc évidemment leur utilisation par les mises en situation, et j'ai trouvé très bien d'ailleurs que dans le programme de lettres de LP, on parle de situation, parce que ça me paraît être essentiel, et quand on travaille sur un certain nombre d'approches avec les collègues québécois par exemple, on voit bien que c'est la mise en situation qui développe réellement, qui solidifie les connaissances, qui permet de développer les compétences et qui permet d'asseoir la capacité à agir avec ce que l'on a acquis. Et ça, c'est essentiel. Alors, vous voyez, pour l'instant, je n'ai pas trop parlé de numérique. On va y venir. Alors, les disciplines et le numérique. Alors, piste d'analyse pour les disciplines. Pour les champs disciplinaires qui suivent, voici quelques axes de travail à partir desquels le numérique peut s'avérer important. Ce n'est pas exhaustif, mais ça veut ouvrir le champ des possibles. L'idée, c'est ouvrons le champ des possibles. Alors, comment ? On y va tout de suite. Alors, en histoire, alors j'ai essayé de faire un peu mieux, j'ai essayé de mettre quelques illustrations quand même. Alors, d'abord, l'accès aux documents et la lecture de ces documents. Là, j'ai mis un document, une photo de la guerre 14, de la Grande Guerre. Hein. C'est comment on développe l'analyse de corpus de données. Comment on travaille sur le traitement critique des ressources. Je crois que une des grandes difficultés qu'ont nos jeunes... C'est justement l'aspect critique des ressources. Pourquoi ? Parce que dans la vie quotidienne, le rapport à l'information, l'information prise aux deux sens du terme, hein, contenu et message numérique, eh bien, aujourd'hui, nous sommes submergés d'informations et face à ça, on jette, mais on ne prend pas ce temps-là du traitement critique des ressources. Et je dirais que l'histoire est une discipline au cœur de cette question-là. Alors, c'est pas le seul, hein, je vous dis, mais j'ai mis le focus sur certains points. Et évidemment, le numérique, là, devient un outil particulièrement intéressant pour le faire. Alors, ça veut dire aussi que, évidemment, il ne faut pas prendre des choses tout prémâchées. Il faut accepter aussi. On discutait avec un collègue l'autre jour, je disais, ben finalement, il y a deux choses qui sont majeures dans le nouveau métier d'enseignant, c'est l'incertitude et l'incomplétude. Avant, on était certain d'avoir le savoir, et on savait que ce qu'on a enseigné, c'était complet. Aujourd'hui, vous n'êtes plus certain, et ensuite, vous êtes incomplet de toute façon. Donc, il faut l'accepter, mais regardez le renversement complet que c'est dans le métier. Incertain, incomplet. Ben, je peux vous dire que pour un jeune enseignant qui arrive aujourd'hui avec l'image qu'il avait, qu'il faut taire ma classe, qu'il faut faire mon programme, je peux vous dire que quand il arrive devant des élèves le vendredi à 3h de l'après-midi et que les élèves sont un petit peu speed et que c'est les vacances le lendemain, par exemple, en ce moment, pour tous nos collègues, j'y pense, il faut quand même une petite pensée pour eux, hein, parce que nous, on a la chance de ne pas y être, je veux dire... Et encore, on a la chance, il neige pas, et il n'y a pas de Saint-Nicolas dans la rue, donc ça va. Donc on peut y aller. Donc, vous voyez, je veux dire par là, ça, on a du travail. Alors, deuxième élément, la construction de repères. Alors, la question des constructions de repères, vous voyez, c'est un petit peu ce qui est transverse à toute l'histoire. En fait, l'une des questions aujourd'hui qui se posent avec le numérique et à cause du numérique, c'est aussi la très grande difficulté que l'on a à avoir des repères. Et il faut savoir que les tout-petits qui aujourd'hui utilisent beaucoup le numérique, en particulier les outils à distance, perdent petit à petit la notion physique de temps et d'espace. Et il faut qu'ils la reconstruisent autrement. Et pour l'instant, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont complètement vivre dans l'instantanéité, ce qu'on observe chez certains jeunes un peu plus âgés actuellement? Est-ce qu'ils vont être capables de comprendre qu'il y a une médiation technique et cognitive dans ce que je vois sur un écran? Et ça, c'est un vrai problème. Or, il est bien plus difficile de faire un repère chronologique quand on est devant un écran que quand on est, il y a encore combien de dodos, c'est quand, c'était avant, c'était après, et quand on oublie d'ailleurs parfois de raconter des histoires. Je reprends là Jérôme Brunner, hein, raconter des histoires. Parfois, moi je pense que les profs d'histoire devraient raconter des histoires et utiliser les mécaniques de Probst, par exemple, pour raconter des histoires. Ça pourrait parfois aider certains jeunes à restructurer, parce que dans une histoire, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après, il y a des choses qui aident, il y a des choses qui rendent difficiles. Et ça, c'est pas inintéressant. Or, malheureusement, la construction de repères est extrêmement compliquée. Et si vous regardez un certain nombre de pages de manuels scolaires aujourd'hui, elles ne sont plus structurées. Elles sont une juxtaposition de documents, et c'est l'enseignant qui doit les structurer tant bien que mal. Mais il est battu en brèche, parce que si le bouquin est sur la table, comme dans la photo qu'on nous a montrée tout à l'heure, on voit bien, il faut structurer. Du coup, la carte heuristique devient le moyen de restructurer, de redonner des repères par rapport à des choses qui ne le sont pas. Et ça, c'était, à mon avis, un élément essentiel. Mais il faut passer de la... Alors, je vais le prendre un petit peu à la philosophe, il faut faire déconstruction, reconstruction. Hein, on déconstruit les objets qui nous entourent et on les reconstruit. Pourquoi il faut les reconstruire? Parce que il faut passer du local au global. L'un des problèmes auxquels on est confronté actuellement, c'est que la plupart d'entre nous, au quotidien, vivons dans le local. Parce que le temps, l'espace, l'activité professionnelle nous font vivre dans le local. Et que le passage du local au global, actuellement, se fait très souvent par le biais des médias. Et des médias de flux. Qui nous renvoie le global. Et le choc entre le local et le global fait qu'il est extrêmement difficile de comprendre le monde. Alors, c'est ou tout se pourrit, hein, la théorie du complot, ou de toute façon, ce qu'ils disent, c'est pas vrai, moi je vis autre chose. Et dans des assemblées de parents, par exemple, moi ça m'arrive d'entendre intervenir auprès de parents, où j'entends dire, oui, mais à la maison, chez moi, c'est comme ça. Et je n'ose pas le dire à ce moment-là, mais j'ai envie de dire aux gens, mais vous croyez que chez les autres, c'est comme ça? Parfois oui, parfois non. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que les gens sont souvent dans une compréhension local, et que l'une des grandes difficultés qu'on a avec des élèves, et en particulier les élèves actuels, surtout quand on est dans des conflits forts sur des choses qui sont, sur lesquelles ils sont assez arc-boutés, c'est de les faire passer une compréhension globale. Et là, je pense qu'on a un vrai travail, et que le numérique ne nous aide pas forcément, mais que l'on peut transformer le numérique pour qu'il nous y aide. Je reviens sur les schémas heuristiques, parce que moi j'aime beaucoup ça, et je travaille beaucoup là-dessus, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le choix des ressources que l'on prend, la façon dont on fait, et j'ai eu la chance une fois de rencontrer, d'écouter une conférence de Marc Ferraud. Pour ceux qui connaissent Marc Ferraud, Histoire parallèle, ce type-là est absolument exceptionnel, son approche de l'histoire parallèle est exceptionnelle. Le prétexte d'histoire parallèle, hein, c'est l'école des annales, c'est la volonté de passer du local au global, de l'événement à la compréhension. Et là, moi, je pense qu'on a un vrai travail à faire avec les élèves, et un travail qui, à mon avis, ne peut pas se faire si on ne fait que de la transmission. En tout cas, il faut pouvoir traiter, triturer les documents. Alors, en géographie, du coup. En géographie, moi, j'ai vu, d'abord, évidemment, le recueil de données dans un contexte. Alors, ce qui pose problème parfois, c'est justement la notion de contexte. Vous parliez tout à l'heure, vous avez montré un très bel exemple qui est la découverte du monde local, du local au global justement, et on s'aperçoit que très souvent les jeunes ont énormément de mal à comprendre la notion de contexte. Vous parliez par exemple d'installer une route à un moment pour contourner une ville. Il y a des contextes historiques, contextes culturels, contextes sociaux. Et d'ailleurs, je dirais, par rapport à la géographie, et c'est amusant parce qu'en venant, je profitais pour feuilleter des documents et j'avais une thèse de géographie qui n'avait rien à voir avec la géographie, c'était la géographie scripturale des jeunes, des adolescents. Alors on dit, mais pourquoi vous faites ça? Mais parce qu'elle dit, le monde de l'écriture est un monde d'espace. C'est une géographie de l'écriture. Alors je vous donnerai la référence si ça vous intéresse, c'est assez surprenant, mais en tout cas ce que je veux dire par là, c'est que la géographie n'est plus une discipline, c'est pas la discipline des cartes, en deux mots, ni en un seul mot d'ailleurs, c'est une discipline, au contraire, c'est une discipline, comment dire, qui rassemble. C'est une des raisons pour lesquelles, quand on a fait de la sociologie, on a le droit d'enseigner en lettres histoire, géo. Parce que c'est un des diplômes qui autorise à passer, etc. Bon, bref. En tout cas, cette notion de contexte, elle est essentielle. Alors, évidemment, l'étude des sources et des documents, le problème de la géographie, c'est qu'il est un peu différent de l'histoire. C'est-à-dire que dans l'histoire, le document, la source, est souvent éloignée temporellement. Donc, elle a subi un filtrage important, sauf si on travaille en histoire contemporaine, mais là aussi, ils ont un sacré problème, hein. Prenez le problème du témoignage, par exemple. En géographie, le problème, c'est que justement, les données sont là. Et qu'il faut apprendre à les extraire du paysage. Apprendre à voir, hein, j'ai entendu ça ce matin, apprendre à voir. Moi, ça me paraît essentiel. Apprendre à voir, apprendre à regarder, apprendre à... je le dis parfois pour l'ordinateur, il faut le dire pour les paysages, hein, mais pour l'ordinateur, ça va tout seul, c'est regarder derrière l'écran. Hein, c'est regarder derrière le paysage. Et ce qu'on fait quand on fait de la schématisation sur paysage, c'est ce qu'on fait. Et ça, ça me paraît essentiel, hein, la schématisation des espaces. En géographie, il y a aussi la question de la modélisation des réalités. On a des outils aujourd'hui numériques, on a parlé des SIG ce matin, c'est de la modélisation de la réalité. Hein, la schématisation, c'est de la modélisation de la réalité. Je pense que là, on a un gisement de travail très important. On l'a vu aussi sur les cartes dynamiques, où on modélise. Le problème, c'est que on a de belles cartes toutes faites. Là, je cliquais sur un bouquin scolaire hier soir d'un éditeur. Alors, évidemment, vous voyez Alexandre le Grand qui circule de là à là, qui va de là à là. Et puis, vous dites, et moi, je fais comment? Parce que ce qui serait intéressant, c'est qu'on apprenne à les construire nous-mêmes et qu'on ait un outil facile pour les construire. Or, c'est très sophistiqué, ces outils-là. Et je rappelle une chose, m'excusez, c'est une incidente, mais c'est une incidente importante. En termes d'apprentissage, un schéma fini est bien plus difficile à comprendre qu'un schéma construit. C'est-à-dire que accéder au sens d'un schéma suppose que je construise le schéma. Et ça, c'est essentiel dans l'apprentissage. Alors, la construction, évidemment, des points de repère. Alors là, du coup, c'est les autres points de repère en géographie. Hein. Et puis, l'articulation avec les autres approches, car la géographie est une pluridiscipline en réalité, ou plutôt c'est une discipline intégratrice. Géographie humaine, etc., etc. Je vous prends des concepts, hein, un concept que moi j'ai utilisé dans ma thèse, qui était une thèse sur le B2I, j'utilisais le concept de territoire. Et j'utilisais ça sur la façon dont des territoires humains occupaient les territoires physiques. Hein, dans le cas, par exemple, du peuplement de la montagne, comment les territoires humains se partagent en fonction des territoires physiques et des compétences. Enfin, il y a tout un travail autour des territoires qui est absolument passionnant. Alors, il ne faut pas oublier l'éducation civique. Et j'ai volontairement mis ces trois images, que j'aime bien. La première nous rappelle l'origine de l'école, hein, en particulier au XIXe siècle, celle qui est le plus à droite, qui nous montre qu'au départ, il a fallu sortir les enfants de la mine, du travail à 12 ans, 13 ans, 10 ans, voire plus petits. Après ça, on a essayé de les mettre dans des écoles. Alors c'est une école que vous voyez au milieu, qui est une école qui est l'école pendant la guerre, pendant la guerre 14-18, je veux dire, dans les zones pendant la Grande Guerre, où on avait reconstitué l'école. Alors c'est ça qui est extraordinaire, on reconstituait l'école dehors. On n'avait plus les murs, tout avait été écroulé, c'était dans l'est de la France. Et puis, il y a ce qui se passe aujourd'hui et que l'on voit de plus en plus, c'est les comportements sociaux qui arrivent de gens qui, dans la rue, sont là. C'est un jeune qui attendait le train à la gare Montparnasse, ne sachant pas quoi faire et ayant sa tablette, se mis à jouer à son jeu de voiture. Voilà, on change de planète. Et quand j'entendais ce matin distribuer des tablettes, je pense qu'on est plus sur ce registre-là, sur le registre du loisir, que ce registre dans l'imaginaire. Hein. Passer du registre des loisirs au registre du travail, ça va être compliqué. En tout cas, s'il y a un point clé que l'on peut travailler avec le numérique en éducation civique, c'est le rapport entre l'individuel et le collectif. Et vous voyez, je tisse le même lien tout à l'heure sur le local, le global, l'individuel, le collectif. C'est le même lien qu'on tisse. Et je pense qu'il y a l'entrée et le vivre en société. Le numérique est en train de bousculer l'entrée et le vivre en société. Et il est en train aussi de bousculer le participer au bien commun. Quand vous voyez les problèmes que pose aujourd'hui, j'entendais ce matin l'histoire de la propriété intellectuelle, ben c'est clair, c'est un vrai problème aujourd'hui. Qu'est-ce qui appartient à tous? Qu'est-ce qui appartient à chacun? Qu'est-ce que c'est que le bien commun? Et derrière ça, quelle vie en société on veut développer? Alors, maintenant on va passer aux lettres. Il faut que tout le monde en ait un petit peu quand même pour en prenne un peu dans sa musette quand même avant de partir. Alors, d'abord, pour moi ce qui me paraît essentiel en premier, c'est l'accès au discours. Alors j'appelle ça l'accès au discours, c'est au sens des linguistes, hein, au sens de Barthes, de Roland Barthes entre autres. Hein. C'est le discours en général, c'est tout discours, avec le travail de réception et le travail d'émission. Et j'ai volontairement choisi une image qui est, ambiguë, qui est comment un jeune peut accéder à l'écrit, à la lecture, mais en même temps, si vous regardiez de près le film qu'il y a derrière, vous apercevriez que c'est la lecture scandée, du Coran. Dans les écoles coraniques rigoureuses, où on fait répéter jusqu'à plus parfaite absorption le Coran, même si on ne le comprend pas, même dans une langue qu'on ne comprend pas. Ce qui est aussi une forme de, d'éducation, il faut le prendre en compte. Nous avons dans nos classes des jeunes qui sont marqués aussi par cette culture-là, et il faut qu'on prenne en compte ces dimensions-là. Le rapport au discours n'est pas le même selon les cultures, et nous avons dans nos classes des jeunes qui n'ont pas le même rapport au discours. Il y a peut-être un siècle, c'était probablement le pater familias qui à table empêchait ses enfants de parler. Aujourd'hui, c'est autre chose. D'accord ? Les rapports à la parole, par exemple, dans la table familiale, ne sont plus de même nature, et donc le rapport au discours en général n'est plus du tout de même nature. Il y a un vrai travail. Travail de réception. Aujourd'hui, nous n'écoutons plus suffisamment. Travail d'émission, aller sur les blogs, j'y reviendrai tout à l'heure, aller sur les espaces où les gens produisent de l'écrit et regarder ce qui s'écrit, et puis vous verrez un petit peu les niveaux d'écriture qu'il y a, en particulier lorsque vous lisez les commentaires. Alors je vous conseille un truc, vous allez sur le site de l'équipe un lendemain d'un match un peu saignant, et vous ne lisez pas l'article, ça n'a aucun intérêt, parce que sinon tout est dans le titre, donc ça va, sauf si vous voulez faire des corrections d'orthographe, ça je vous invite aussi, comme sur mes bouquins, comme sur moi quand j'écris, c'est la même chose, il faut corriger. Par contre, vous lisez les commentaires. Les commentaires, c'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est très instructif. Je pense que tous les enseignants devraient lire ça, comme ils devraient d'ailleurs suivre aussi la télé-réalité pour comprendre comment pensent certains jeunes, comment on montre aussi certains jeunes. Parce que ça fait partie justement de la déconstruction progressive de la capacité à recevoir un message. Et la difficulté que nous avons dans un certain nombre de nos classes à travailler sur cette capacité à recevoir le message. À tel point même que nous, adultes, sommes pris au piège quand on considère par exemple que la quantité de télévision consommée est aujourd'hui supérieure en nombre d'heures par les adultes que par les enfants. Les jeunes, en particulier les jeunes qui sont les jeunes de nos classes. Donc entre 13 et 20 ans, ils ont baissé leur niveau d'écoute de la télévision, alors que les adultes continuent d'augmenter. Alors, autre élément, la rencontre avec les œuvres. La rencontre avec les œuvres, la question, elle est fondamentale, en particulier en lycée professionnel, mais pas seulement. C'est qu'aujourd'hui, la notion d'œuvre est mal comprise. C'est-à-dire que c'est compris comme une sorte de balade dans un cimetière, quoi. Alors, j'aime bien, il y a plein d'initiatives qui ont été prises, et je trouve que le numérique, là, peut nous permettre d'enrichir nos pratiques et nous permettre d'aller dans les œuvres. Je trouve, par exemple, que l'histoire des arts est une très belle initiative. Bon, je ne parlerai pas de la mise en œuvre, mais l'idée de l'histoire des arts, l'idée qui est une idée qui n'est en fait qu'une pâle copie de CD-ROM qui existait il y a quelques années, qui était, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une époque où il y avait des CD-ROM multimédia, il y en avait un qui s'appelait Verlaine Monet Debussy. Je ne sais pas si vous avez connu ça dans le temps. Il y avait des séries de CD-ROM qui avaient fait la réunion des musées nationaux, qui étaient super, qui rapprochaient simplement des artistes de différentes, avec des contextes historiques et autres. Et puis un jour, on a vu arriver l'histoire des arts, je me suis dit, tiens, ils ont copié. Non, il ne faut pas le dire, c'est pas bien. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'était l'occasion non seulement d'amener des jeunes auprès d'une œuvre, mais c'est aussi de leur permettre de la mettre en perspective. C'est-à-dire qu'il y a l'œuvre, il y a la découverte, il y a l'imprégnation de l'œuvre aussi. Alors ça, c'est des collègues qui travaillaient sur la télévision dans les années 80 ont écrit, c'est Marie-France Couloumdian et Pierre Babin, ont écrit dans un livre qui aujourd'hui évidemment n'est plus disponible à cause des droits d'auteur, excusez-moi, ont écrit que le problème de la télévision, c'est que la télévision fonde une partie de son discours, enfin l'audiovisuel en général, le cinéma aussi, sur l'émotion. Or, l'émotion est quelque chose qui est proscrit du système scolaire, ont-ils constaté en 1980. Alors, pour ceux d'entre vous qui étaient adolescents entre 1975 et 1985, si je vous listais tout ce qu'on disait des jeunes à l'époque, et si vous disiez ce que vous êtes devenu aujourd'hui, vous verriez que finalement, on a peut-être tort de dire du mal des jeunes à certains moments, parce que quand ils deviennent adultes, ils sont finalement pas si mal que ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, si vous voulez, nous sommes dans une époque dans laquelle on a refoulé énormément d'émotions, même dans la lecture, quand on fait réciter par cœur des choses à partir de livres littéraires, on se demande si on n'est pas en train de tuer l'auteur tout simplement, ou de tuer simplement le goût de la lecture, parce que je pense que là, on a un vrai travail de retrouver l'émotion dans la lecture, globalement dans le rapport aux œuvres. Ça, je pense qu'il y a un énorme travail. Et puis évidemment, la compréhension. Alors la compréhension, c'est évidemment ce qu'on fait dans la lecture analytique, mais alors on en a tellement brassé des théories, des machins, des trucs, qu'on ne sait plus où on en est pour beaucoup d'entre nous, en particulier en lycée professionnel. Alors, il y a évidemment un autre point qui est celui de la communication. Car aujourd'hui, et je l'ai écrit par ailleurs, aujourd'hui, il me semble que l'enseignement des lettres, en particulier en collège et en lycée professionnel, ne peut plus mettre de côté, mais aussi en lycée général d'ailleurs, ne peut plus mettre de côté la dimension infocom. Et d'ailleurs, dans les programmes, c'est clair, hein, je regardais les programmes de 2009, c'est clair, il y a une dimension infocom qui apparaît. Alors elle apparaît en limite, hein. Mais quand vous regardez les pratiques sociales des jeunes, ou si vous regardez les programmes de seconde des enseignements d'exploration, et en particulier celui qui est autour de la littérature, vous apercevez, c'est littérature et société, vous apercevez que 4 items sur 5 sont des items d'infocom. Le cinquième étant à la limite. Mais je veux dire par là qu'aujourd'hui, le fait communicationnel, en particulier amplifié, et c'est ça qui est nouveau, amplifié par le numérique, modifié par le numérique, transformé par le numérique, est aujourd'hui un fait de société suffisamment important pour que nous ne puissions plus l'éviter. D'abord pour la question de l'accès à l'information et à l'interaction, et deuxième chose, l'accès à l'expression, mais aussi à l'exposition. L'exposition de soi, l'exposition de l'écrit, bref, tout ce qui expose quelqu'un au monde. Beaucoup de gens, par exemple, pensent que la célébrité est très importante, d'autres pensent que le contenu de ce que l'on dit est plus important. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, qui a raison, qui a tort. Statistiquement, celui qui pense que le contenu a raison, est important, il a tort. Celui qui pense que la popularité est importante, c'est lui qui a raison, statistiquement. Même si on peut penser le contraire. Or, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de jeunes qui, dans l'expression orale et écrite, vont rechercher davantage la popularité que la pertinence. Et donc, on a un énorme travail à faire pour reconstruire avec les jeunes la notion de pertinence par rapport à la notion de popularité. Ne pas réduire la pertinence à la popularité. Alors, passons maintenant à l'idée de la pédagogie. Vous m'excusez, je vais peut-être un peu vite, mais l'objectif c'est aussi qu'on puisse échanger après. Donc il y a des phrases choc, et puis de toute façon ça vous pourrez le reprendre après, et j'ai enregistré en plus, si vous voulez je vous donnerai l'enregistrement. Alors, question de pédagogie, des pistes de réflexion. Alors, j'ai trouvé cette image-là, libre de droit bien évidemment, j'ai trouvé ça très sympathique. Parce que la première chose qu'on interdit à l'école, et je ne sais plus, on en parlait ici ou là, c'est que c'est interdit de copier. Avec le numérique, c'est obligatoire de copier. Vous voyez? Donc, CTRL-C, CTRL-V, POMM-C, POMM-V, tous ceux qui utilisent l'ordinateur le savent. Voilà. Alors, je vais rappeler la taxonomie de Bloom, quand même. Parce que, au début des années 80, il y a eu une énorme réforme en lycée professionnel où j'enseignais qui a amené à la transformation des programmes en référentiel, enfin début de référentiel à l'époque. On est en 1984-1985, on réécrit tous les programmes et on s'aperçoit qu'apparaissent des capacités. Et voilà qu'on nous dit, ah mais il y a un monsieur qui s'appelle Bloom, il a fait une taxonomie, donc il a classé, alors je vous ai donné simplement les grandes entrées, et les verbes qui semblent correspondre à leur connaissance, compréhension, application, analyse, synthèse, jugement, évaluation. Mémoriser, comprendre, appliquer, analyser, évaluer, créer. Alors, quel est l'intérêt de cette taxonomie? C'est qu'elle est suffisamment ouverte pour nous permettre de nous repérer. Quelles en sont les limites? C'est qu'en aucun cas, ça ne définit quelque chose de précis. C'est quoi connaître, c'est quoi comprendre, c'est quoi appliquer, c'est quoi analyser, c'est quoi synthétiser, c'est quoi juger, c'est quoi évaluer. À chaque fois, il y a quoi écrire au moins 3 ou 4 ouvrages pour arriver à préciser ça. Mais au moins, ça a le mérite, disons, de fixer un cadre. Un cadre, comme vous l'avez fait ce matin sur une de vos présentations, où vous présentiez les trois, je crois que c'est vous qui présentiez ça avec le SIG, hein, avec les trois parties. Je pense que là, on retombait dans les mêmes idées. L'avantage, c'est que ce sont des mots compréhensibles par tous, qu'ils nous donnent déjà au moins un cadre, et que ce cadre, même s'il est loin de la définition canonique des compétences, etc., etc., au moins il nous permet d'avancer. Et je pense que si on y revient un petit peu, c'est que aussi il y a là un fondement, je dirais, un petit peu standard, qui fait que si on peut se focaliser sur ça du côté de celui qui apprend, alors on peut peut-être progresser et trouver après ça comment le numérique peut s'intégrer là-dedans. Mais vous avez donné des exemples ce matin qui me semblent tout à fait aller dans ce sens-là. Alors, l'approche pédagogique et le numérique. Alors, excusez-moi, là, je vais être un petit peu verbeux à certains moments, mais je vais essayer d'être compréhensible. D'abord, et on l'a vu, il faut aller à la recherche des centres d'intérêt. L'exemple sur la dépréciation de l'intérêt pour le travail à distance, le e-learning, chez les élèves de 5e, peut laisser penser plusieurs hypothèses. L'une d'entre elles, c'est que ça ne les intéresse pas. Et qu'ils ont donc d'autres centres d'intérêt. Alors, les espaces numériques sont des sources fabuleuses, ce sont des moyens fabuleux. Et alors, moi, quand je dis ça, c'est, en fait, tous les jeunes sont à la recherche de centres d'intérêt, d'objets d'investissement. Tous. Certes, certains sont vraiment déjà, ont déjà vraiment reçu des coups sur la calebasse et ont du mal à s'en sortir parce que la vie qu'ils ont vécue jusque-là leur donne pas vraiment une bonne image de la suite. Mais globalement, tous les jeunes, et quand vous les regardez tout petits, ils ont envie de bouffer le monde. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'au cours de leur scolarité, on leur a appris à ne plus bouffer le monde et au contraire même à leur dire « Attends, non, attends, fais ce qu'on me dit, on m'a dit qu'il faut aller là, donc je vais là. » À 7h, de 7h à 8h, je dois être à tel endroit, de 8h à 9h, je dois être à tel endroit, donc j'irai. Donc on est dans ce cadre-là. Or, le numérique ouvre ça, il casse ça. Mais il ne le casse pas dans l'école, il le casse en dehors de l'école. Parce qu'en dehors de l'école, quand je passe du CM2 à la 6e, je passe de 1 ou 2 enseignants par semaine à 10 enseignants différents toutes les semaines. Avec 10 façons de faire différentes, avec 10 cahiers différents, avec 10 manuels différents, que je dois porter bien évidemment. Donc voilà. Donc, si vous voulez, il y a une possible désaffection, une potentielle désaffection par le système lui-même tel qu'il est organisé. Or, les jeunes sont à la recherche de centres d'intérêt, et toutes nos pédagogies telles qu'on les montre, tous les essais qu'on fait ici ou là, ben, elles cherchent quoi ? Elles cherchent à retrouver quel est le centre d'intérêt qui va permettre à l'enfant de redémarrer ou de poursuivre cela. Le numérique ouvre un champ des possibles qui leur permet d'aborder la compréhension du monde qui les entoure. Si vous détectez dans vos classes, si vous arrivez à faire exprimer par les jeunes des espaces de passion. L'autre jour, je fais un entretien dans un collège, j'avais un jeune, il me dit, il a une tablette, c'est parce qu'on travaille sur des projets de recherche sur les tablettes, et il a une tablette qui l'amène à la maison. Et je lui dis, alors, qu'est-ce que tu fais de la tablette à la maison ? Oh, je n'utilise pas beaucoup, moi, je préfère être dehors. Et ah bon, explique-moi. Il dit, moi, je suis passionné de pêche. Bon. Super. Et je lui dis, et alors, bon, comment tu fais ? Ben avec mon père, on va, j'aime mieux faire ça que d'être à la maison sur ma tablette. Je dis, oui, mais à la tablette, plutôt que de travailler, je suppose que tu n'as pas beaucoup... Non, je travaille pas beaucoup avec. Mais tu es allé voir des sites sur la pêche ? Ah oui, 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 et qu'est-ce que tu fais ? Ben, je regarde des vidéos, je regarde ci, je regarde ça. Et tu as appris quelque chose avec ça ? Ah oui, alors là, il commence à me raconter tout ce qu'il faisait avec. Ce qui montre que quand un enfant a un centre d'intérêt, même s'il n'est pas scolaire, il va, s'il le souhaite pour valoriser son centre d'intérêt. Et si nous en avions la possibilité, il va pouvoir construire malgré tout un chemin d'apprentissage. Sauf qu'évidemment, ce chemin d'apprendre la pêche en 6e, mon avis, ce n'est pas tout à fait au programme. Hein. Donc, il ne risque pas de retrouver des échos. Or, c'est dommage. C'est dommage. Si, là, il a la chance, son père est aussi passionné de pêche. Donc, ensemble, ils vont ensemble, ils discutent autour de l'écran quand ils vont là. Ils discutent autour de l'étang. Alors, je lui dis, tu t'intéresses à quel type de pêche ? Ah oui, uniquement la pêche en rivière et en étang. Pas la haute mer ? Ah non, pas la haute mer. Bon. Vous voyez ? Il a construit tout un environnement de connaissances intéressant. Donc, à la recherche des centres d'intérêt me paraît être un élément qui peut nous aider, nous, à reconstruire ou à construire des projets pédagogiques. Plutôt que de dire aux élèves, voici la thématique, peut-être que parfois on peut essayer de leur permettre d'exprimer des thématiques sur lesquelles ils travaillent. J'étais tombé dans une interview il y a une dizaine d'années sur une jeune... il y avait déjà Internet à l'époque, rassurez-vous, sur une jeune fille de collège de 3e, de classe de 3e, qui était passionnée de Mylène Farmer. Eh bien, rien qu'en étant passionné de Mylène Farmer, je validais à peu près les 9 compétences sur 10 du B2I. Parce qu'elle participait à des forums, parce qu'elle vérifiait que les trucs étaient vrais ou pas, parce qu'elle savait envoyer un mail à Mylène Farmer, évidemment, ça a été clair. C'est assez clair, bon, je ne sais pas si elle répondait à Mylène Farmer, mais enfin bon, en tout cas, j'avais tout ça. Elle était capable de stocker l'information, elle imprimait. Donc, si je prenais les compétences du B2I, rien que parce qu'elle est passionnée de Mylène Farmer, ça lui suffit pour être... validé. Mais est-ce que à l'école, on va valider les compétences Mylène Farmer ? Réponse, non. Non. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je me fais l'avocat du diable et je caricature volontairement. Hein, c'est fait exprès, c'est l'art de la rhétorique, comme on dit. Alors, deuxième élément, c'est amusant parce qu'on ne s'est pas concerté, mais j'en ai entendu parler ce matin, le sentiment d'auto-efficacité et l'estime de soi. Il y a un problème majeur, et qui pourrait reprendre encore l'explication sur le collège, c'est le sentiment que ce n'est pas intéressant, que ce n'est pas efficace, que ce n'est pas valorisé, que d'utiliser ces technologies. Et donc, que, les technologies, non. Parce que le système scolaire, en fait, pour l'instant, il ne laisse pas beaucoup de place aux technologies, hein, en réalité. C'est parce que vous êtes un peu volontaire que vous avez envie de vous intéresser à ça, mais globalement, on peut s'en passer très bien. D'ailleurs, les élèves l'ont bien compris. Hein, cinquième, ils veulent plus. Ils ont compris que ça va. Il y a autre chose à faire en classe. Donc, puis en plus, c'est un prof un peu à part. Celui-là, il fait des trucs dans son coin, mais les autres, ils le font pas. Donc, non, mais il est là, il le sait. Donc, et il m'en a parlé en plus. Donc, je le fais gentiment. Ce que je veux dire, c'est que j'ai été exactement dans la même situation. Quand vous êtes exotique dans une équipe pédagogique, votre exotisme peut être complètement balayé par la norme. Et la norme, c'est pas forcément de faire ces activités de cette nature-là. La norme, elle est peut-être pas d'utiliser le numérique. Et une des difficultés de l'introduction du numérique, c'est justement comment on fait passer, on arrive à s'affranchir de cette norme. En tout cas, deux problèmes majeurs dans l'éducation de nos jeunes. Le premier, c'est la construction de soi. Et ça, c'est très important. Et ça se joue aussi bien sur la citoyenneté, sur l'éducation civique, que globalement sur la compréhension du monde. Et le projet... Le développement d'une pédagogie. Alors, c'est quelque chose qui a, comment dire, qui a tellement inondé le monde pédagogique qu'on a mis à la porte, c'est le projet. Et pourtant, Dieu sait si c'est bien les pédagogies de projet. Dieu sait si c'est bien. Parce qu'en fait, c'est quasiment, je dirais, le fait même de la vie quotidienne. La vie en projet, c'est le fait même. Ben, qu'est-ce que tu fais cet été ? Ben, j'ai en projet d'aller. Alors, on dit pas j'ai en projet d'aller, on dit j'ai envie d'aller. Bon, d'accord ? Mais c'est un projet. Or, on a tellement galvaudé le mot projet, on l'a tellement mis à toutes les sauces, projet éducatif, projet machin, vous devez faire des projets dans tous les sens, hein, pour avoir 3 francs 6 sous, etc., qu'au bout d'un moment, on en a soupé du projet. Donc, il faut redonner à la dimension, je dirais, dynamisante du projet, sa place. Et là, le numérique est un vecteur qui peut nous y aider. Alors, pour l'image de soi, aujourd'hui, un des problèmes très importants qui se pose dans nos établissements scolaires, c'est que, justement, les jeunes ne mesurent pas combien, ou plutôt ils le mesurent, mais ils le mesurent, comment dire, ils ne sont pas capables de le traiter, ou très peu capables de le traiter, combien l'image de soi se construit à travers le numérique. Alors, c'est quelque chose d'inconscient, ça se fait à travers les SMS, ça se fait à travers la participation Facebook. Et si vous regardez la vie sociale d'une classe, vous vous apercevrez qu'à l'intérieur de cela, désormais, et c'est pas moi qui l'ai montré, c'est entre autres Dominique Pasquier dans son étude sur les lycéens, par exemple, qui a montré comment, justement, à l'intérieur d'un groupe classe, l'image de soi et la construction de soi passent par l'usage des technologies, qui, évidemment, amènent à des dialogues parallèles qui ne sont absolument pas contrôlés par l'école, mais qui, par contre, ont une répercussion sur le bien-être à l'école de l'enfant. Le numérique envoie des images déformantes et déformées qu'il leur faut apprendre à domestiquer sans se laisser instrumentaliser. Ça, c'est pour les autres images. Il y a l'image d'eux-mêmes et puis il y a l'image des autres. Faire comprendre qu'il y a une médiation technique et cognitive qui est à travers les écrans, c'est quelque chose de très compliqué. Il suffirait qu'on discute 3 minutes ensemble très librement pour que quelqu'un me dise « Oui, j'ai vu une émission à la télévision qui me dit. » Et moi, je réponds « Vous croyez que tout ce qui se dit à la télévision, c'est vrai ?» Il me dit « Non, 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 mais enfin, je l'ai vu à la télévision quand même. » Bon. Eh bien, si vous voulez, la question, c'est qu'actuellement, les systèmes de médias, qu'ils soient sur Internet ou pas, sont en train ils continuent plutôt de nous encombrer intellectuellement et de nous enlever notre sens critique, de tenter de nous enlever notre sens critique. Je remercie M. Lelay d'avoir prononcé sa fameuse phrase sur les 5 minutes de temps, les minutes de temps disponibles à Coca-Cola qu'il était chargé de vendre. C'est magnifique, c'est une des plus belles phrases que j'ai entendues ces derniers temps, qui était au moins la preuve que les gens qui ont le pouvoir, entre guillemets, là c'est le pouvoir économique et culturel, savent très bien ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Et donc les conclusions, c'est l'instrumentalisation des jeunes, des plus jeunes parce qu'ils sont plus vulnérables. Les adultes, c'est un peu plus dur, ils sont parfois un peu revêches, ils résistent, des fois ils ne veulent même pas utiliser les tablettes qu'on leur donne dans les établissements. C'est quand même un peu fort, a dit le Dan. Alors, autre élément, on en a parlé aussi ce matin, et ça me paraît très important, mais c'est un énorme problème, le développement de l'autonomie. L'objet technique comme tiers pédagogique. C'est-à-dire que, d'un seul coup, le fait d'utiliser les objets numériques, les outils numériques, ça vous donne une autonomie supplémentaire par rapport à l'institution scolaire. Alors ce matin, on a évoqué, par exemple, faut-il ou non encore interdire les smartphones? Alors moi, j'ai toujours dit qu'en 2015, plus personne n'interdira les smartphones. D'ailleurs, on commence à le voir dans les règlements intérieurs. Moi, je regarde de temps en temps les règlements intérieurs des établissements scolaires pour voir à quel moment ils introduisent, à quelle limite, à quel endroit. Ça, c'est un peu comme la cigarette, à part que c'est le mouvement inverse. C'est-à-dire qu'on l'exclut petit à petit. Alors pour l'instant, la cigarette, c'est sous le trottoir. D'accord? Tandis que le smartphone, ben, il y a des zones. Hein. Alors, c'est bien parce qu'on peut prendre les mêmes zones. Hein. Vous savez, les zones au sol dans les cours de récréation. On met là, tu as le droit d'utiliser le smartphone. Si tu passes là, tu es puni. Bon, etc., etc. En gros, si vous voulez, on a un souci actuellement. Hein, c'est donc qu'effectivement, il y a une autonomie possible qui fait que dans une... Alors, vous êtes très gentil, vous n'êtes pas venu avec trop d'ordinateurs, donc ce qui fait que vous ne pouvez pas trop vous connecter pendant que je cause, pour aller vérifier ce que je dis. Mais dans un amphi aujourd'hui, à l'université, mais de plus en plus dans des classes, il n'est pas rare que des élèves viennent vérifier ce que vous dites, parce que ou viennent compléter d'ailleurs, très simplement. Hein, ils viennent compléter, ils viennent dire, bah oui, tiens, il a dit ça, mais ça me rappelle ça. Et puis, il lève la main, il me dit, mais monsieur, il y a ça aussi. Ah bon, tu l'as vu où ? Ben, je viens de le voir à l'instant sur Internet. Bon. Donc, on a cette autonomie qui peut se jouer. Alors, pourquoi ne pas en profiter, justement, pour éduquer cette autonomie, la travailler ? L'autonomie par rapport à la construction des savoirs, par rapport au savoir même. Alors, nous sommes dans un accès mobile et connecté au monde numérique, qui impose à chacun, désormais, l'obligation d'autodirection dans l'action, dans son développement. J'insiste énormément sur le terme autodirection. Pourquoi ? Parce que, en fait, alors je vais partir d'un peu plus loin. Un autodidacte n'est pas quelqu'un qui apprend seul, c'est quelqu'un qui dirige seul son apprentissage. C'est-à-dire qui donne la direction, qui est capable d'autodirection. Et comme le dirait Laurent Cosnefroy dans un ouvrage tout à fait passionnant, mais un peu difficile, c'est la capacité d'autorégulation dans l'apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait, le souci, quand... La plupart d'entre nous, nous avons passé entre 19 et 25 ans dans un système dans lequel le programme était défini à l'extérieur, les heures, les jours où il fallait apprendre étaient définis par l'extérieur, les modalités d'évaluation de ce qu'il fallait apprendre étaient définies par l'extérieur. Et un beau jour, on vous a dit, voilà, maintenant tu vas dans la vie et tu te débrouilles. Ah, après 25 ans de traitement comme ça, je peux vous dire qu'on n'en sort pas forcément très autonome. C'est un vrai problème, pour en particulier, parce qu'on le sait, c'est que en fait, les gens qui ont développé réellement leur autonomie, ils l'ont développé en dehors du système. Ils l'ont développé, ils ont pu la développer arriver après Bac plus 2, Bac plus 3, ou lorsqu'ils étaient en milieu professionnel. Mais quasiment jamais dans le milieu scolaire. Et d'ailleurs, certains élèves viennent vous dire, oui mais enfin, c'est l'accompagnement personnalisé en seconde par exemple. Oui mais c'est pas sérieux, on fait rien. Il y a même des parents qui viennent le dire. Hein. Non, il faut leur donner des cours. Hein. Et d'ailleurs, il y a des professeurs qui donnent des cours d'ailleurs pour l'accompagnement personnalisé. Ils ont oublié que l'accompagnement personnalisé, c'était quelque chose d'essentiel pour permettre la digestion des apprentissages, et on l'a transformé en complément d'apprentissage. Vous savez, c'est un peu les compléments vitaminés. Hein. D'accord ? C'est un peu la même chose pour l'apprentissage. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que la question, c'est que, alors qu'on a mis des espaces petit à petit pour permettre l'autodirection, le développement de l'autodirection, en fait, on a énormément de mal à l'accepter. Et pourtant, ça devient de plus en plus essentiel, surtout que nous sommes dans une société dans laquelle, de plus en plus, l'injonction à se former par soi-même et la statistique très intéressante que vous avez fournie ce matin, c'est vous qui l'avez fournie sur où est-ce qu'ils apprennent les 85% d'apprentissage en dehors du milieu, en dehors des formations formelles. C'est clair, de toute façon, hormis l'informatique, mais c'est une vieille histoire, on aurait pu faire les mêmes statistiques, je pense qu'il y a à peu près une quinzaine d'années, hein. Ça n'a pas changé. En fait, nous apprenons énormément par nous-mêmes. Et que cet apprentissage, il est coûteux. Mais que, en plus, nous ne sommes pas formés à apprendre par nous-mêmes. Nous n'avons pas d'outils suffisants pour apprendre. Alors bon, on se débrouille plus ou moins bien, certains se débrouillent mieux que d'autres. Et c'est ça qui fait la différence. Parce qu'au bout du compte, c'est souvent ça qui fait la différence entre des élèves qui vont réussir parce qu'ils ont su chercher les compléments vitaminés par eux-mêmes et ceux qui ont attendu qu'on leur amène. Alors, et puis il y a ceux qui ont les moyens de payer un cours complémentaire parfois aussi. Hein. Ça, c'est encore un autre problème, mais c'est à peu près du même ordre hein, en termes de fonctionnement social. Alors, ça, c'est important, c'est le développement de la capacité d'autodirection chez les jeunes. Et ça, je pense qu'il y a un énorme travail dans les projets pédagogiques d'établissement, surtout si on développe le numérique. Et puis, il y a ce que j'appelle le foisonnement. Alors, je me suis permis, j'ai essayé ce mot-là, l'inflormation. C'est entre l'inflation et c'est ce que j'appelle l'information. Parce que j'aime pas l'infobésité. Vous savez, l'autre terme, c'est l'infobésité. Moi, je préfère l'inflormation. Suppose un travail personnel qui peut s'articuler avec le travail scolaire. Je pense que la porte d'entrée dans laquelle on est le plus à l'aise dans le milieu scolaire, c'est probablement autour de cette surcharge d'information. Où là, je pense que c'est une des bonnes portes. D'ailleurs, vous l'avez tous signalé, et on le sait depuis très très longtemps, d'ailleurs, dans les programmes, c'est marqué, mais dans les préambules des programmes, c'est marqué, mais il faut aider à la recherche d'informations, à la recherche des documents, permettre aux élèves d'être autonomes dans cette dimension-là. On le sait, c'est essentiel. Et s'il y a un point sur lequel on peut vraiment travailler, à mon avis, la porte d'entrée du numérique, c'est d'abord là. Alors évidemment, c'est bien plus facile quand je suis enseignant et que j'ai mon programme à faire et que j'ai peu d'heures de cours, d'arriver en classe, évidemment, si en trois heures je dois faire l'islam, ben, j'ai intérêt à amener tous les documents sur l'islam parce que je leur dis, bon, on va se mettre devant Internet et on va travailler sur l'islam. Alors là, vous en avez pour, allez, une vie et demie à peu près, même si on est 25, on la divise en 25, ça fera, allez, 3 ans, 4 ans chacun, n'empêche que, au bout du compte, c'est clair, on n'arrivera pas. Donc, on a plus tendance à être dans la restriction d'informations et l'apport d'informations ciblées, parce qu'au moins, en 3 heures, on aura vu l'islam. Et 3 heures après, on l'aura oublié. Bon, donc ça c'est bien, on est tranquille. Efficacité, 0,25% à peu près, enfin bon, c'est assez classique, mais malheureusement, c'est ce qui nous reste d'une grande partie des choses que nous avons apprises. Alors, de temps en temps, il y a un flash, ou un truc qui d'un seul coup nous a passionnés, ça peut amener des gens d'ailleurs à l'autre bout du monde, mais bon, ça arrive parfois. Mais globalement, on en a perdu une grande partie. Une grande partie. Alors, autre chose, autre élément, le partage de la responsabilité. Alors, l'initiative, la découverte, l'autoguidance, ça vient dans la suite de ce que je disais tout à l'heure hein, sur l'autorégulation. Le monde numérique est un monde ouvert, excusez-moi j'ai fait une faute, et interconnecté. Il favorise les initiatives, mais suppose aussi une capacité à se responsabiliser pour soi et auprès des autres. C'est non seulement en réception sur les choix de ce que je fais, mais aussi en émission. Hein, car j'ai évoqué tout à l'heure les fameux commentaires, c'est de l'irresponsabilité. Quand j'ai suivi plusieurs affaires, alors de près ou de loin, de jeunes qui diffamaient leurs enseignants sur Internet. Vous avez peut-être été victime de ça, vous avez peut-être assisté à ça. Et alors, ce qui était stupéfiant, c'est que chaque fois qu'on me racontait cette histoire, les enseignants me disaient, et le pire, hein, c'est que ce n'était pas ceux auxquels on s'attendait. Hein. C'était non, des enfants ordinaires, moyens, quoi, tranquilles. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons une partie de notre jeunesse qui, dans ce système dans lequel nous sommes, est totalement irresponsabilisée. Et on va les amener après ça dans une société dans laquelle ils vont être hyper responsables. Hein, fatigue d'être soi, Alain Ehrenberg, etc., etc. L'obligation de se construire. On est dans un paradoxe qui est très inquiétant, hein, qui est en même temps que nous avons un système scolaire qui est extrêmement contraignant et un monde à côté qui, évidemment, ouvre des possibles auxquels beaucoup de jeunes ne sont pas préparés, les plus démunis en particulier. Les plus démunis, en particulier culturellement. On parlera de la fracture tout à l'heure. Le développement de la responsabilité numérique est un soubassement de l'approche critique. Alors si je dis cela, c'est parce que, aussi souvent, alors je suis très critique sur l'esprit critique. Moi j'en ai marre d'entendre parler d'esprit critique. L'esprit critique, pourquoi j'en ai marre? Alors je vais faire une caricature à nouveau. C'est parce que, très souvent, du haut de ma chair, je tiens à dire que l'esprit critique, n'est-ce pas, fait que moi je peux vous dire si c'est bien ou si c'est mal. Alors plan moyen, plan large, là il y a du rouge, là il y a du vert, il y a du jaune, oui. Et tu saurais fabriquer une affiche? Ah non, non, je ne sais pas faire. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des gens qui peuvent critiquer, mais critiquer tout le monde sait le faire. En France, on est, paraît-il, spécialiste de ça. Enfin, en tout cas, dans le monde du football, c'est très connu. Hein. Tout le monde est spécialiste, vous le connaissez, c'est un lieu commun. Mais le problème, c'est qu'en réalité, on est très très peu capable, je dirais, de faire ce travail d'esprit critique. C'est-à-dire le travail de déconstruction que j'évoquais tout à l'heure. Et sur le plan pédagogique, il faut passer, à mon avis, par la responsabilisation individuelle dans ce que j'écris. Alors, il y a eu un très bel exemple qui a été montré par Christelle Mambret-Bézier, que vous connaissez peut-être sur ceux qui fréquentent Internet, lorsqu'elle a fait son fameux blog qu'elle animait dans sa classe. Alors, c'était malheureusement pas dans le cours, c'était en périphérie du cours, mais ça avait au moins le mérite d'exister. Elle disait, c'est incroyable, quand vous faites tenir un blog par vos élèves, et puis qu'en plus, vous autorisez des gens à commenter, et puis que vous vous débrouillez pour que 2-3 collègues avec vous amènent ces élèves à commenter aussi, c'est incroyable ce que ça développe la responsabilité de la prise de parole. La responsabilité sur la qualité du produit fait. Et on se dit, mais on a là un outil simple devant nous. Ça fait des années et des années, on se pose la question encore, est-ce qu'on va ouvrir un blog, pas ouvrir un blog? Alors qu'il y a 6 ans, l'ambassade de France au Liban, vous savez, au Liban, ils sont pas mal francophones pour un certain nombre d'entre eux, organisait pour les établissements francophones un concours de blog. Il y a 6 ans, 7 ans de ça. On se demande pourquoi aujourd'hui on est encore aussi frileux sur ces questions-là, alors qu'on sait qu'elles ont une valeur éducative très très importante. Alors, pas forcément un blog, mais d'autres choses. En tout cas, la capacité à s'exprimer, c'est aussi développer la responsabilité d'expression, et le numérique est un vecteur important. La semaine de la presse est quelque chose d'intéressant et d'important, mais si ce n'est qu'une semaine, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La semaine de la presse, c'est toute l'année. Et toute l'année, c'est passer à des activités d'écriture. La semaine de la presse, c'est un moment phare dans une année dans laquelle on a cette préoccupation-là aussi. Et l'esprit critique, pour moi, elle passe d'abord par la capacité à se mettre en situation d'avoir à affronter la critique. Alors, évidemment, lieu commun aussi, mais en même temps très important, la coopération, collaboration, l'entraide, le soutien, le co-apprentissage. Je crois qu'il y a de très très beaux projets à faire autour d'une expérience, enfin à partir entre autres d'une expérience très ancienne, qu'on appelle aussi la classe mosaïque, qui consiste à prendre un programme d'enseignement, à le diviser en chapitres ou en thématiques, et de demander aux élèves de fabriquer le cours, et de le faire et de le réaliser après. Alors, c'est une technique un peu extrême, elle a été testée en Amérique du Nord, à Chicago, dans une école d'enfants en très grande difficulté, parce qu'ils n'avaient plus du tout envie d'apprendre, en disant « maintenant c'est vous les enseignants, vous allez apprendre à d'autres ». Puis j'ai suivi une ou deux expérimentations où on le faisait sur des sujets très précis. Là, c'était en mathématiques, par exemple, où on demandait à des élèves de collège en difficulté de fabriquer des logiciels pour apprendre la mathématique à des élèves de primaire. Donc, sur des opérations simples. Donc, c'était l'objectif, c'était de leur faire travailler ça. C'est-à-dire que c'est ce que je sais enseigner, je le maîtrise mieux. Donc, si j'ai en plus à le modéliser sur une machine, voilà. Bon, c'est des trucs tout simples, hein. C'est pas des trucs très compliqués, mais l'idée, c'est qu'on faisait travailler les gens en collaboration, on les faisait travailler en petite équipe, on les amenait à travailler sur le co-apprentissage, des dimensions très intéressantes qui sont très motivantes pour les jeunes. On s'étonne, moi, chaque fois que j'ai fait du travail de groupe, hein, je raconte souvent que j'ai inventé les TPE 10 ans avant que Philippe Mérieux ne les invente. C'était quand on expérimentait les bacs pro. J'ai enseigné dans les premières années de bac pro au moment où c'était expérimental. Et on avait développé pendant 2 ans des ateliers type TPE autour de la communication et de l'expression en français. Mais en français et avec les profs de communication, parce que j'étais en tertiaire, donc on utilisait les profs de professionnels en même temps. Et c'est incroyable de voir comment dans l'équipe ça travaillait ensemble, comment ils se répartissaient le boulot. Et quand on sait la richesse que ça a en termes pédagogiques, mais aussi en termes de valorisation de soi, on se demande pourquoi on ne le fait pas plus souvent. C'est vrai que parfois, on a parlé tout à l'heure de classe autobus. Hein. Moi, j'appelle ça randonnion, mais on a chacun ses références. Hein, on n'a pas forcément les mêmes références, mais ceci dit, c'est un peu la même chose. Les classes ne sont pas forcément physiquement adaptées à ça. Et la photo que tu as montrée tout à l'heure montre bien qu'effectivement, une partie des choses vient aussi dans la façon de gérer l'espace classe. Alors, le monde numérique connecté en réseau est en écho aux pratiques de socialisation adolescente. Alors, c'est là la particularité, et c'est pour ça que c'est un vecteur très intéressant si vous avez des jeunes entre 12 et 18 ans en classe. Le travail collaboratif, en fait, ils le vivent au quotidien. Alors, plus ou moins bien, hein, mais ils le vivent au quotidien. Et ça, je pense qu'on a un écho, dont c'est un vecteur, hein, vous pouvez l'utiliser sans difficulté. L'activité fondée sur l'interaction humaine est un levier important du développement de la compétence à apprendre tout au long de la vie, apprendre de l'expérience et de l'interaction. C'est-à-dire que non seulement il n'est pas interdit de copier, mais il est recommandé de s'entraider. Mais par contre, il faut donner des méthodes pour s'entraider. Il y a une époque où, c'était MSN à l'époque, bon ça a disparu depuis, mais les jeunes, j'ai assisté, moi j'ai même vu mes enfants le faire, le soir, font leurs devoirs à la maison. Alors en général, ils travaillent, et en même temps il y a MSN, il y a Facebook, enfin il y a quelque chose pour faire du réseau, quoi. Et puis, vous les voyez, ils zappent de l'un à l'autre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce zapping? Alors, vous avez deux techniques principales. La première, c'est « tu me le donneras quand ton devoir, quand il sera fini ». Bon, ça, c'est pas extrêmement productif, c'est pas très nouveau non plus. Il suffisait d'aller dans les bus le matin pour voir le nombre de jeunes qui recopient sur leurs genoux le travail de l'autre. Bon, c'est du vécu. Et puis, il y a ceux qui disent « et toi, t'as trouvé ça ? Mais moi, j'ai pas trouvé ça. Toi, t'as trouvé ça. Tu peux me dire comment t'as fait pour trouver ?» Et leur donner la méthode qui consiste simplement à interroger l'autre, non pas sur ce que tu as eu comme résultat, mais comment tu as fait pour obtenir le résultat, et dire, oui, mais tu peux m'expliquer pourquoi tu as fait ça, moi j'aurais fait ça plus tôt, etc., etc. Eh bien, il suffisait que s'instaure ce dialogue pour que s'instaure de la co-construction de savoir. C'est tout simple, mais où est-ce qu'on l'apprend ça? C'est en tout cas pas dans le système scolaire actuel, tel qu'il est conçu et tel qu'il est commandé, que nous avons l'habitude de le faire. Certains le font, hein, je ne dis pas que ça se fait pas, hein. Mais c'est marginal. Or là, on a une marge de progression. Et quand on travaillait sur le travail à la maison tout à l'heure, en particulier sur la question que nous posait notre collègue sur le e-learning, la partie e-learning du cours, eh bien effectivement, je pense que c'est sur, contrairement à l'école inversée, moi je trouverais au contraire très bien qu'on engage une discussion, par exemple on met une vidéo, mais la discussion elle s'engage entre les élèves avant de s'engager en classe. Car c'est très intéressant. La présence de l'enseignant modifie totalement le type de discussion qu'ont les élèves entre eux. Qu'elle intervienne à un moment, elle est nécessaire, je vous dirai pourquoi après. Mais par contre, laissons les jeunes aussi maturer entre eux, se poser des questions. Quand on travaille sur la main à la pâte en école primaire, quand on travaille sur ces démarches d'investigation, les démarches de problématisation, le moment passionnant, c'est le moment où ils s'affrontent. C'est le moment où ils discutent entre eux, où ils disent « mais je suis pas d'accord avec toi, là, il faudrait faire ci, faire ça ». Et ils savent le faire. Alors, pourquoi on le fait pas? Alors, évidemment, plus généralement, c'est les pédagogies de l'activité, de l'initiative qui derrière, que l'on pousse beaucoup derrière, en disant « on a un champ extraordinaire hein, de pédagogie de l'activité, mais ça a été déjà dit ce matin, de l'initiative, alors là j'ai plus loin parce que c'est par rapport à mon premier point sur l'intérêt, c'est-à-dire que quand un enfant a de l'intérêt pour un sujet, c'est intéressant de l'amener à prendre des initiatives à partir de ce sujet. Parce que du coup, il est capable d'initiative. Sinon, il attend, parce que le système scolaire est fait pour attendre qu'on dise ce qu'il y a à faire. Malheureusement, les modèles pédagogiques qui existaient jadis sur ce sujet-là ont quasiment tous disparu pour une raison déjà très très simple, c'est qu'un enfant n'existe à l'école qu'essentiellement pour venir suivre des cours et absolument pas pour y vivre quelques moments avec ses collègues, hormis les récréations, mais là, globalement on bourre le temps, et alors quand en plus vous êtes en milieu rural et que c'est des bus qui amènent le matin et des bus qui repartent le soir, vous n'avez aucune marge de manœuvre. Vous prenez 25 heures, vous prenez les bus, et comme les bus sont coordonnés avec l'école d'à côté, le machin d'à côté, le truc de près, tu ne peux rien faire. Tu décales d'une heure, oh, c'est la panique, les gamins ils sont à la rue. Bon, mais moi, le nombre d'établissements ruraux avec lesquels j'ai travaillé, c'est ça le problème. Autrement dit, la notion de temps est complètement bloquée à cause de ça. Du coup, le numérique peut être un moyen, effectivement, de prolonger. En tout cas, la production personnelle est un moteur de l'apprendre, donc elle ne s'arrête pas aux limites de l'école, elle ne s'arrête pas. Malheureusement, le temps scolaire, en particulier en collège, est extrêmement contraint, et qu'il laisse très très peu de place, hormis quelques exceptions, à des temps d'activité autres. Donner sens aux apprentissages, c'est d'abord finaliser les activités, leur donner un sens, ce n'est pas de l'activité pour de l'activité, hein. C'est pas parce qu'ils sont actifs qu'ils apprennent, c'est parce qu'ils donnent un sens à l'activité qu'ils apprennent, et qu'ils la font l'activité, évidemment. Être actif ne suffit pas. On peut mettre des élèves actifs, hein. Ils n'apprendront strictement rien s'ils ne voient pas le sens de l'activité. Très important. Internet, parce qu'il autorise l'expression, est un vecteur de projet dans lequel chaque jeune peut présenter, voire projeter ce qu'il sait faire. À condition qu'on le lui autorise, mais là, ce n'est pas toujours simple. Je sais qu'autour de l'histoire, autour de la géographie, il y a pas mal de choses qui se font. En lettres, on a des réalisations fantastiques aussi qui ont été faites. Autour de l'instruction civique, on l'a vu aussi. On a des disciplines là qui sont, à mon avis, très très porteuses. D'autres le sont moins parce que les programmes sont plus contraints. Autant en sciences, ça peut se faire, autant en maths, c'est peut-être moins évident, par exemple. Mais ça dépend aussi des méthodes pédagogiques qu'on adopte. Alors, on va passer maintenant à la culture, les cultures numériques chez les jeunes. Alors, il n'y a pas de génération Y, hein, il y a des choses comme ça. Alors, quelques chiffres. Taux d'équipement en téléphonie mobile en fonction de l'âge, du diplôme, des revenus et de la taille du foyer. Alors, vous avez ici donc ces éléments-là. Donc, on a d'abord selon l'âge, ici. Vous apercevez que globalement, hein, 100%, 97%, on prend les chiffres d'équipement de tout à l'heure. Hein, donc, on retrouve effectivement ces taux-là. Alors, un peu moins là. Donc, les fameux 10% que vous évoquiez, on les retrouve un peu partout. Hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est en termes de... Alors là, par contre, ça devient différent. Hein, ce n'est plus l'âge du tout, mais c'est le diplôme. Et vous apercevez, et cet élément-là est extrêmement important pour moi, attention, Internet est aussi... Comment dire ségrégatif, voilà, que le livre. Pourquoi? Parce que, simplement, ceux qui ont le plus de moyens sont ceux qui savent le mieux l'exploiter. D'accord? Ça c'est dans le numéro, alors je vous invite à télécharger hein, le dernier truc du Crédoc, hein. C'est tiré du Crédoc qui vient de paraître, hein, le rapport 80, de 2013 du Crédoc à ces chiffres là, hein, j'ai tiré de là. Hein. Alors ensuite regardez sur les moyens financiers, vous croisez les moyens financiers 3100 euros et plus et vous croisez les diplômes, et bien vous avez la réussite. Et paradoxalement, c'est marrant, on a 5 personnes et plus, c'est-à-dire que ce sont dans les familles les plus nombreuses que l'usage du téléphone, que l'équipement du téléphone mobile est la plus importante. Or, pourtant, on pourrait se dire qu'il y a des problèmes de moyens financiers, et paradoxalement, non. Alors, on va continuer sur ces quelques chiffres. Taux d'équipement en smartphone, alors je reprends un peu l'exemple de ce matin, hein, de aussi, 75% des 18-24 ans, 55% des 12-17 ans. Attention, c'est du déclaratif, mais le Crédoc est assez sérieux dans ce déclaratif, il fait des enquêtes assez sérieuses. Alors, les diplômes, à nouveau, l'argent, à nouveau, l'urbanisation à nouveau. Bon, c'est classique, mais ça fait bien de se le rappeler. Maintenant, le taux d'équipement en téléphonie mobile en fonction de l'âge du diplôme. Non, je me suis trompé, je suis parti à l'envers. Voilà, celui-là. Le temps moyen passé sur Internet en fonction de l'âge. Bon, voilà. Hein, donc, et vous voyez l'augmentation au cours des 3 dernières années. Autrement dit, globalement, tant qu'on a le temps, c'est-à-dire quand on est dans les périodes de vie où on a un peu de temps libre, eh bien, on consomme beaucoup plus d'Internet. D'accord ? C'est en nombre d'heures par semaine. Hein. Donc un jeune en moyenne 18-24 ans va jusqu'à 24 heures par semaine. Hein. Une semaine ayant 7 jours, ça fait donc bon, un peu plus de 3 heures jour. D'accord ? Alors, on continue. Alors, compétences ressenties. Alors, ils ont fait attention au credo. Compétences ressenties par les jeunes. Alors, regardez. Le niveau de compétence est extrêmement élevé. Et paradoxalement, il est moins élevé chez les 12-17 ans en ce moment qu'avant. Alors, c'est de la compétence ressentie. C'est-à-dire, est-ce que tu te sens compétent ? Donc, il faut être très très prudent sur ce chiffre-là. Mais ils sont intéressants quand même. C'est-à-dire que par rapport à la question de faut-il ou non leur enseigner le numérique à l'école, ça pose des questions. Et puis, compétences ressenties en fonction du diplôme, et à nouveau, on retrouve cet élément-là. Ça veut dire que la fracture numérique, telle qu'on l'évoque, est avant d'être une fracture d'équipement, est d'abord une fracture culturelle, liée avec à des éléments sociaux, à des éléments de diplôme, etc. etc. Il ne faut jamais oublier cette dimension-là. Et Pascal Plantard, qui travaille à Rennes sur cette question-là aussi, pourrait le dire, on est en contact assez régulier. Alors, culture numérique. Il y a des pratiques différentes selon le niveau d'études et de revenus, ce qu'on vient de voir. La manière de faire varie selon l'âge, mais le numérique modifie les limites habituelles. C'est-à-dire qu'en gros, si vous sortez de la dimension statistique qu'on vient de voir, et que vous entrez plus à fond, ce qui aurait été intéressant de faire dans les expériences qu'on fait ce matin, c'est aller dans une dimension plus ethnographique. Et il y a quelques travaux qui ont été faits là-dessus, où on essaie de suivre de manière longitudinale, qu'on essaie de faire ce qu'on appelle nous des personas. C'est-à-dire des descriptions de personnes, avec leur trajectoire, on s'aperçoit qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, comme dirait le poète. C'est-à-dire que, derrière des statistiques, il se cache quand même des itinéraires extrêmement différents. En 2003, je menais une enquête auprès de jeunes de collège, et j'étais à Gennevilliers, au pied des Tours, dans un collège où il y avait beaucoup de primo-arrivants, dans une place où il y a beaucoup de primo-arrivants. Et par rapport à une question qui a été posée ce matin, on est en 2003, hein, et je leur demandais, est-ce que vous allez sur Internet ? Réponse, à 90%, oui. Avez-vous un équipement à la maison ? Réponse, à 50%, non. Alors, comment faites-vous ? Donc, parce que ça, j'ai fait mon enquête, et après ça, j'ai fait des entretiens. Donc, j'ai des explicitations pour vérifier. Et en fait, ils m'expliquaient comment ils faisaient. En fait, il y a toujours un copain chez qui on a Internet, il y a toujours le bureau de poste dans lequel on squatte le machin, il y a la bibliothèque municipale, il y a l'EPN. C'est-à-dire que quand un jeune a envie et souhaite accéder, pour peu que son environnement le lui permette, c'est-à-dire qu'il ne soit pas géographiquement totalement décentré, eh bien il y arrive. Alors, les manières de faire varient selon l'âge, mais le numérique modifie les limites habituelles. Mais regardez ce que j'ai écrit après. Derrière ça, il se cache quelque chose. Le monde marchand et médiatique, c'est le moteur de ce numérique. Il ne faut jamais l'oublier. La croyance envers le progrès, c'est le carburant. Les objets techniques, c'est la carrosserie. Or, nous ne voyons que les objets techniques et nous oublions trop souvent le reste. J'ai été impressionné. J'ai fait un focus group en début de semaine dans un collège avec des élèves de 6e. Et dans ce focus group, donc on passe une heure avec les élèves sur un certain nombre de questions autour de la tablette justement avec laquelle ils ont. Et c'est incroyable le discours sur le progrès de jeunes de 10-12 ans. On me dit c'est le discours des parents. C'est pas que le discours des parents. C'est-à-dire que nos jeunes dès l'âge de 10-12 ans sont totalement fascinés par les objets techniques qui les entourent. Je dis bien fasciné. Et il y a une évidence très lourde, très très lourde. Il ne faut jamais perdre de vue ce truc-là. Or, derrière, vous avez une campagne médiatique, une campagne du monde marchand qui pousse énormément. Je vais prendre un exemple simple. Serge Tisseron, que beaucoup d'entre vous connaissent, a publié un bouquin qui s'appelle 36912 et avant avait participé au rapport de l'Académie des sciences sur la télévision et les écrans. Eh bien, dans le 20 minutes d'il y a quelques jours, je crois que c'est d'hier ou avant-hier, il y a un article qui reprend Tisseron, mais ne le cite pas complètement, et dit finalement, ben, on peut mettre une tablette dès qu'ils sont tout petits, parce que Tisseron a dit que ce n'est pas forcément incongru, mais comme ce sont les marchands de tablettes qui, derrière, viennent pousser le machin, l'auteur de l'article a dit finalement, ben, les tablettes c'est génial, et il utilise Tisseron à l'envers de ce qu'il dit, pour dire finalement c'est très très bien les tablettes, alors que Tisseron dit méfiance. Il ne dit pas interdiction, il dit méfiance. Et il dit différence entre l'écran de télévision, les écrans passifs et les écrans actifs, mais il ne dit pas c'est bien. Mais dans la bouche du journaliste, c'est devenu c'est bien. Autrement dit, il y a un discours convenu qui dit c'est bien. Il y a un discours convenu qui dit c'est du progrès, c'est bien. Donc ce discours convenu, nous, on cherche à le mettre à jour, parce qu'il nous semble dangereux. Et dans les cultures numériques, aujourd'hui, il y a un soubassement très fort qui est celui-là. Et qui se traduit par la possession de l'objet, possession qui est une valeur symbolique d'existence sociale pour les gens. La raison pour laquelle les foyers les plus démunis s'équipent très fortement de matériel numérique, c'est parce que c'est un moyen d'être comme les autres, pour ses enfants comme pour soi-même. Quelques repères. Il y a donc constitution d'une fracture culturelle autour du numérique, suite de celle qui s'est développée à partir de l'écrit. La place de la construction de soi est amplifiée par les usages d'Internet. Mais les médias de flux gardent une puissance importante, essentielle. Moi, je suis sidéré de voir d'abord la puissance que garde la télévision, la radio, sur les jeunes, et la façon dont elle a investi les médias traditionnels, les médias nouveaux, pour garder le leadership. C'est très impressionnant, très impressionnant. Et, c'est dans leur logique, hein, c'est une logique commerciale, logique d'équilibre. Alors, il y a des questions sur les jeunes. D'abord, ils sont capables de développer des habiletés très importantes, mais ils sont manipulables. Le métissage culturel est désormais amplifié. Alors, c'est quoi le métissage culturel? C'est le fait qu'aujourd'hui, les frontières traditionnelles de la culture, et de la culture classique, je dis bien, aujourd'hui sont totalement bousculées. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus, et ça c'est Dominique Pasquier qui l'a prouvé, vous ne pouvez plus, en fonction de la classe d'origine des gens, traduire ça en pratique culturelle, sauf aux extrêmes, comme le dit Olivier Donat. C'est-à-dire que les extrêmes, les plus diplômés, les plus riches, et les extrêmes, les moins diplômés, les plus pauvres, gardent les pratiques traditionnelles. Par contre, au milieu, il y a un métissage extrêmement fort. C'est-à-dire que vous écoutez aujourd'hui, vous-même, des musiques que vous n'auriez jamais écoutées s'il n'y avait pas eu ces systèmes de métissage liés aux technologies. Hein? D'ailleurs, ça, on le voit même dans la culture musicale. Hein, il suffit d'aller voir comment les Bretons ont rencontré les Balkans pour faire, l'Afrique du Nord pour faire ça. Alors, au-delà de la culture des jeunes, il y a l'environnement qui change. Alors, il ne faut jamais oublier une chose, c'est qu'il n'y a pas que le numérique. Il y a l'emploi, il y a le commerce, il y a l'information, qui sont des mutations du fait du numérique, qui sont en mutation du fait du numérique. Il y a aussi d'autres mutations sociales, les familles. Alors, elles ne sont pas liées au numérique, ces mutations-là. Les idéologies. L'idéologie politique ou religieuse. La religion elle-même, le travail. Les loisirs, le progrès sont des éléments qui sont en mutation. Et cette mutation, par exemple, regardez la montée de l'écologie entre 1974 et maintenant. Et le discours écologique et l'écho qu'il a. C'est un changement très très important dans notre société par rapport au progrès, par rapport aux bienfaits, aux méfaits de la technique. Regardez le rapport aux médecins aujourd'hui que nous avons tous aujourd'hui à la médecine. Il y a des changements colossaux. Si je dis ça, c'est parce qu'on accuse trop souvent Michel Serres de ne s'intéresser qu'au numérique. En fait, il l'écrit dans son livre Petite Poussette, au début de son livre, il rappelle quand même qu'il n'y a pas que cette mutation-là. Et si vous écoutez bien, ce qu'il dit aussi, c'est que la mutation du numérique ne fait qu'accompagner d'autres mutations qui sont d'ampleur au moins aussi importantes. Monsieur Lucien Neuwirth, qui est décédé récemment, qui avait travaillé sur justement la contraception, fait partie de ceux qui ont participé de ce changement, qui était nécessaire ou pas, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, qui est un fait. L'environnement social change. Les lieux de savoir évoluent rapidement. C'est incroyable le nombre de bibliothèques qui ont mis de l'ordinateur, les musées, qui ont développé des services pédagogiques. L'autre jour, je fais une visite au musée des Beaux-Arts à Lyon. C'est l'exposition Cornell, vous avez peut-être entendu parler. C'est magnifique comme exposition sur les surréalistes. Et je vois des jeunes, des enfants, avec un petit livre, et avec leur maman parfois, la maman aurait fait de partir, mais c'est pas grave, il y avait le petit livre en tout cas. Et la maman disait, tu vois, dans le petit livre, c'était dit, où est tel personnage sur le tableau? Donc, ils avaient fabriqué un livret pédagogique, un livret pour les enfants apprendre. Vous n'allez plus dans un musée sans qu'on vous fasse, on vous mette un audio guide. Bon, heureusement, ils ne sont pas très très bons, mais ils sont trop bons, ça dépend comment on le voit. Mais on ne peut plus vous envoyer dans un lieu de savoir sans essayer de vous faire de la pédagogie. Et alors le meilleur exemple, c'est évidemment les musées technologiques. Si vous allez au musée technologique de Berlin, ou si vous allez à la Villette, ou si vous allez à l'exploratorium de San Francisco, qui est un des plus célèbres en la matière, eh bien, vous avez des démarches pédagogiques. Autrement dit, ce qui était des lieux de conservation ou des lieux de distribution, maintenant sont des lieux de transmission aussi. Il concurrence l'école. Mais l'école aussi évolue, malgré tout. Sauf que, en France en particulier, le modèle scolaire reste très marqué sur une construction qui est issue du XVIIIe siècle, Condorcet, XIXe siècle, Napoléon, puis Jules Ferry, et renforcement jusqu'à René Haby, collège unique. Et aujourd'hui, on est encore dans ce modèle-là. Hein, et la difficulté à réformer le collège aujourd'hui est là. Les possibilités d'information et d'interaction simultanées sont la nouvelle forme de la société du spectacle. Et je fais exprès d'utiliser cette expression-là, hein, que je prends à Debord, qui est ou à Bourdieu d'ailleurs. Hein, Bourdieu disait la société du spectacle, c'est la mise en confrontation systématique. Aujourd'hui, c'est l'information et l'interaction simultanée. C'est une nouvelle forme donc de société du spectacle. Il faut que tout soit simultané. Donc sur Internet, il faut avoir des gens en permanence. Les relations humaines emportent désormais un volet de médiation technique important. Attention, la relation humaine est aujourd'hui assistée par la technique, et cette technique n'est pas neutre. La technique, je l'ai écrit récemment, si vous l'avez peut-être lu, la technique n'est pas qu'un outil. Ce sont des instruments. Alors, on va aller maintenant sur les objets, et puis on va avancer, on va terminer assez rapidement. Hein. Les objets numériques semblent toujours nouveaux, et ça, hein, on a... Moi j'ai 30 quelques années là-dessus, commencé avec le Commodore 64, TRS 80, alors pour ceux qui savent quelque chose, c'était au siècle dernier, et depuis on n'a pas arrêté d'avancer. En fait c'est toujours la même chose, hein, parce qu'on a l'impression que ça recommence. Hein. Sauf qu'à l'époque on était reliés par des machins qui pesaient, j'ai acheté les premiers IBM PC, vous imaginez pas le prix que ça coûtait, et vous imaginez pas le poids que ça pesait. C'était infernal ces machines, c'était infernal. Aujourd'hui... la même chose, et c'est plus puissant dans mon smartphone que le PC que j'avais à l'époque. Bon. Alors, les objets techniques existent avant tout dans des contextes et ils prennent plus ou moins d'importance. Attention, les objets changent selon le contexte dans lequel on les utilise. Alors, quand je dis ils changent, je veux dire par là que chacun d'entre nous est en charge d'en faire un objet à l'intérieur de l'espace dans lequel il est. Prenons un exemple, une scène très courante, le restaurant. Et la place du smartphone dans les gens qui sont au restaurant. C'est très intéressant à observer. Et c'est intéressant de se demander à quoi ils servent, comment ils existent là-dedans. Alors, vous voyez que les objets peuvent prendre des formes diverses selon les endroits où on est, mais il y a un moment où, et c'est un problème avec le smartphone par exemple, où les gens, quel que soit le contexte dans lequel ils sont, c'est le smartphone qui a pris le devant. Et ça, quand vous avez ceci, pour moi c'est un signal très fort. Quand quelqu'un, dès que la sonnerie retentit du smartphone, se branche dessus, ou qu'elle ne retentit pas, eh bien, et quelle que soit la situation, qu'il se comporte de la même façon partout, pour moi c'est un signe de changement radical de posture sociale. C'est-à-dire que le ailleurs est supérieur au ici et là. Et là, psychologiquement, on a une mutation. Évidemment, toutes ces machines embarquent de l'intention humaine, ils embarquent et qui s'imposent plus ou moins à l'usager. C'est l'intention et les outils qui s'imposent à l'usager. Alors, parlons de quelques objets qui fâchent, le TBI, tablette, smartphone, l'informatique pervasive. Hein. L'informatique pervasive, c'est l'informatique sans écran, mais qui communique. Par exemple, vous savez, on va vous mettre bientôt des bracelets. Dans vos montres, on mettra ça. Comme ça, on saura combien de pas vous avez fait dans la journée, quel a été votre rythme cardiaque. Après ça, on mettra dans le revers de votre veston, on mettra un petit truc qui va permettre de savoir si vous avez beaucoup transpiré, si vous avez... Enfin, etc., etc. C'est en train d'arriver. Hein, et c'est de l'informatique embarquée, communicante, mais sans écran. Et elle communique avec des terminaux qui parfois vous rendent voie de l'information, parfois pas. Donc on a aujourd'hui on a des objets qui apparaissent. Alors le plus abominable pour moi reste dans les récentes dépenses insensées de nos élus locaux, c'est le TBI, qui est d'un coût absolument énorme par rapport à aux fonctions qu'il remplit, en réalité, même s'il est utile dans certains cas très précis. S'il peut être utile dans certains cas très précis, il ne faut pas l'oublier, mais en tout cas, le coût est rédhibitoire. Heureusement, des solutions ont évolué et ont permis de baisser les coûts pour avoir au moins une partie des fonctionnalités. La carrosserie du numérique se situe désormais dans le « à portée de la main ». Ça, c'est un concept très important pour moi, et ça, dans la pédagogie, ça va changer les choses, réellement, dans la façon dont on peut envisager plutôt le travail pédagogique. C'est qu'aujourd'hui, on envisage qu'une dans une classe... on sorte l'ordinateur quand on en a besoin, on le range quand on n'en a pas besoin. Une enseignante de primaire qui travaille en CM2 a eu l'an dernier, combien elle a eu 10 tablettes iPad dans sa classe. Et bien elle avait 20 élèves de CM1 et 5 élèves de CM2 dans sa classe. Cette année, elle a eu autant, on lui a fait une dotation complémentaire, elle a autant d'iPad que d'élèves de CM2. Elle a toujours un double niveau, mais elle a des élèves de CM2. Et alors elle dit, j'ai changé de pratique. Avant, les élèves venaient la chercher, donc quand il y avait une activité, ils allaient au fond de la classe, ils prenaient la tablette, on distribuait, gna gna gna. Là maintenant, ils l'ont du matin jusqu'au soir. Ils la prennent le matin, ils la rangent le soir, puisqu'ils ne l'amènent pas à la maison. Et elle dit, c'est incroyable, aujourd'hui, j'en ai besoin, je ne suis plus obligé de penser à utiliser le numérique. J'en ai besoin, je le sors, j'en ai pas besoin, je le range. Et comme c'est une tablette, on le met au fond du sac, on le met sous la table, il y a ce qu'il faut, terminé. Ça devient un objet banal dans l'espace scolaire. Autrement dit, vous voyez bien que pour la personne qui veut l'utiliser, elle a tout à fait une autre vision. Il y a un petit objet dont elle m'a parlé, on n'en a pas entendu parler ce matin, elle m'a dit, il faut le boîtier Apple TV. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est la possibilité de connecter n'importe quel appareil d'une salle en Wi-Fi sur le vidéoprojecteur. Et ça, elle dit, c'est pédagogiquement, et les deux collègues avec lesquels on a travaillé là-dessus, m'ont dit pédagogiquement, ça c'est imbattable. Vous faites faire du travail aux élèves, vous dites, tiens, toi prends la main, affiche ton résultat, la tablette s'affiche automatiquement. Elle me dit, ah ça c'est vraiment un truc extraordinaire. Je peux faire participer tous mes élèves, je les fais venir les uns les autres. Pas besoin de se déplacer dans la classe systématiquement, ils peuvent se déplacer, mais ce qu'il y a surtout, c'est que ça permet aux élèves d'exposer très rapidement leur travail. C'est des petits trucs comme ça. Alors évidemment, il n'y a pas de connexion, il n'y a rien. C'est tout est fait. Alors il n'y a pas besoin de faire, vous voyez, tout le bazar qu'on a fait là, tout à l'heure pour se connecter, ça marche, ça ne marche pas. Là non, vous cliquez sur un bouton, ça ouvre la fenêtre, je veux me connecter, hop, automatiquement vous prenez la main. Bon, c'est des petits trucs tout bêtes. Mais c'est des petits trucs qui ont dit, ah, si on y pense comme ça, comme ça, comme ça, tiens. Peut-être que pédagogiquement, le à portée de la main devient quelque chose qui va pouvoir changer la façon de faire. On est quand même très loin du temps où il fallait réserver la salle et y aller et s'apercevoir que la moitié des salles, des appareils ne marchent pas quand on arrive dans la salle. Hein? D'accord ? Mobilité et connexion sont aujourd'hui les deux piliers qui poussent les évolutions actuelles. C'est-à-dire qu'il faut penser mobilité et connexion. Autrement dit, toutes les pédagogies numériques aujourd'hui ne peuvent s'appuyer que sur l'idée qu'on est mobile, on est connecté. Et ce matin, vous avez vu l'exemple, mais on l'a dit. Hein, et si ce n'est pas le Wi-Fi, alors ce sera la 3G ou la 4G. L'espace-temps scolaire est donc remis en cause, mais on l'a vu, on a eu des exemples ce matin. Logiciel. Alors, du côté des logiciels, parce qu'il faut aussi parler de ça, Internet, bureautique, schéma heuristique, carte conceptuelle, réseaux sociaux numériques font partie aujourd'hui intégrante du quotidien. Alors, schéma heuristique, je suis étonné, il y a des endroits où c'est beaucoup plus utilisé, d'autres où c'est peu utilisé. Vous en avez vu un ce matin, notre collègue vous en a montré son travail qu'il faisait avec les élèves et ce qu'il faisait lui-même pour sa présentation. Moi, ça me paraît très intéressant. Je pense qu'il y a du travail à faire. Attention, 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 ce n'est pas la panacée universelle non plus, pas plus qu'autre chose. Mais c'est un outil intéressant, en particulier pour les actions de construction des constructions. En pédagogie, en lettres en particulier, le schéma heuristique est quelque chose de connu. Hein, très longtemps. Si vous faites de la lecture analytique, c'est peut-être un outil intéressant. Évidemment, les logiciels dédiés aux disciplines, on a vu ce que vous avez montré en géographie, on pourrait prendre toutes les disciplines, il y en a, les profs de maths les connaissent bien aussi. Et puis, il y a les logiciels généraux comme les ENT, des trucs comme ça. Les ENT, j'ai plus d'interrogations. Au vu de ce que j'ai vu, je souhaite que ça fonctionne, j'espère que ça fonctionnera, mais comme l'a dit ce matin, je crois que c'est votre Dan qui a dit ça, faudrait peut-être quand même que ça ne se limite pas aux usages administratifs. L'observation actuelle des statistiques des ENT montre que quand même la partie qui n'est pas utilisée, c'est le pédagogique. Alors, statistiquement, hein, c'est la statistique nationale, quand ça marche, hein, et quand ça marche. Ceci dit, il y a des vraies questions qui se posent actuellement, et un certain nombre de gens ont tôt fait d'utiliser une Dropbox, d'utiliser Google Docs, d'utiliser un Drive quelconque, et contournent complètement les systèmes, quand c'est pas Facebook d'ailleurs, avec les enseignants. Donc, on a un problème aujourd'hui sur cette partie, c'est est-ce que les contenus des ENT sont pertinents par rapport au contexte culturel numérique actuel. Ce n'est pas certain du tout. Les expériences faites avec les Orpad, par exemple, ou avec Evernote et autres, montrent qu'il y a peut-être une sacrée concurrence et que je ne suis pas certain qu'il faille d'ailleurs aller contre. Je travaille aussi dans une université où je m'occupe d'aider les gens à faire, d'utiliser les technologies. Et je m'aperçois qu'on a mis un bel ENT en place, mais qu'ils ne l'utilisent pas. Par contre, ils utilisent tous, ils utilisent une partie seulement, mais tout le reste, c'est Facebook, c'est LinkedIn, c'est Twitter, c'est des machins comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, mais vous comprenez, c'est bien plus proche de nos activités habituelles. Les étudiants, un jour, dans un travail de projet, travaillaient comme ça, la prof arrive, ils cachent leur écran. Alors la prof dit, ben non, expliquez-moi ce que vous faites. Eh ben, on est sur Facebook. Pourquoi vous êtes sur Facebook ? Ben, on a fait un groupe privé, et sur ce groupe privé, on fait notre travail de projet. Fait des TPE en lycée, des choses comme ça. Là, c'était en enseignement supérieur, c'est la même chose. Donc, on voit bien qu'il y a un problème. Alors, les ENT, à mon avis, sont arrivés trop tôt dans leur conception initiale en 2004, 2003-2004. Ont mis trop de temps à se développer. sont aujourd'hui pris dans des problématiques politiques extrêmement complexes. Alors quand je dis politique, c'est des problématiques politiques économiques et parfois identitaires très complexes. Et je trouve que malheureusement, on a du mal à s'en sortir. Enfin, pour vous dire, j'ai participé récemment à la consultation du ministère sur les ENT. Il m'a demandé d'être un peu impertinent, je l'ai été. Je n'ai pas été forcément entendu, mais je leur ai fait comprendre qu'il faudrait peut-être quand même faire un effort sur le pédagogique, justement, parce que le creux, c'est le pédagogique. Mais peut-être que le creux, c'est aussi lié au gap entre les pratiques sociales habituelles et les pratiques proposées par les ENT. Et on ne peut pas dire, comme l'a dit votre Dan ce matin, mais comme l'avait dit avant Pascal Faure, Dan de Nancy, c'est pas parce qu'on a mis une machine qu'il faut l'utiliser. Si la machine est mauvaise, on ne l'utilisera pas. Et rassurez-vous, même si vous voulez pousser les usages, les gens qui ne voudront pas l'utiliser ne l'utiliseront pas si ce n'est pas... Alors, il y a deux critères, hein, vous connaissez, en ergonomie, utilisabilité, utilité. Est-ce que c'est utilisable? Alors, c'est un bon problème. Est-ce que c'est utile? Utilité perçue. Quand vous avez, alors, sachant que le deuxième est plus important que le premier. Donc, il faut développer l'utilité perçue et renforcer l'utilisabilité. Quand j'entends parler de maintenance et autres, ben voilà, ça en fait partie. Alors, le cœur de l'action, c'est le logiciel. Mais attention, les logiciels imposent leurs algorithmes. Faites très attention aux algorithmes, en particulier les algorithmes des réseaux sociaux. Lisez Alain... oui, c'est Alain Cardon, je crois. Oui, non, c'est pas là. Enfin, bon, c'est Monsieur Cardon, en tout cas, qui est chercheur à l'École des hautes études, qui a fait un énorme travail sur l'intention dans les logiciels. Donc, dans les algorithmes des logiciels. Autrement dit, il nous dit, par exemple, Facebook est fait pour restreindre votre communauté et pas pour l'ouvrir. En effet, ce qu'il vous montre en premier, c'est ce que disent les gens que vous fréquentez le plus souvent. Autrement dit, il renforce l'aspect communautaire au lieu de vous amener à vous ouvrir. Mais il dit, ça c'est le logiciel, c'est l'algorithme qui est derrière, qui en fait fait apparaître en premier sur votre mur les informations de ceux qui sont les plus proches de vous habituellement. Autrement dit, plus je vois un ami, plus je le verrai. Et les études qui ont été montrées, c'est on a 50 amis dans le grand cercle, on en a 15 dans le cercle moyen, on a 5 dans le cercle restreint avec lequel on communique réellement. Bon. En tout cas, faites attention à ça, les logiciels ont des intentions embarquées. Leur intégration suppose des projets, même si leur affordance tend à nous importer. L'affordance, c'est ça, hein, c'est la capacité à imposer une action à l'utilisateur par la fonction même du produit. En tout cas, il faut arriver à s'en défaire. Alors, troisième niveau, donc je vous ai vu niveau matériel, niveau logiciel, niveau des dispositifs. Alors, classe inversée, enseignement hybride, tweet class, CCC, etc., etc., tous des dispositifs, hein. En gros, on est à la recherche d'une pédagogie numérique qui n'existe pas. La forme scolaire est questionnée, mais reste incontournable actuellement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous invite à réfléchir beaucoup à la notion de forme scolaire. Vous avez deux textes un texte fondateur, c'est un texte de Guy Vincent qui a été publié dans les années 95-96 sur la forme scolaire. Et vous avez récemment, dans un numéro qui est paru au mois de novembre, un texte d'Anne Barrère sur la notion de dispositif et qui attaque la notion de forme scolaire. En fait, ce qu'elle explique, et elle ne l'explique pas à propos du numérique, elle explique à propos des dispositifs, mais elle explique qu'en fait, le monde scolaire essaye à tout prix de maintenir une forme canonique, hein, on l'a évoqué ce matin, unité de temps, unité de lieu, unité d'action, alors moi j'ajoute souvent porte fermée en plus, parce que évidemment, il ne faut pas que ça sorte, hein, ou il ne faut pas qu'on entre, enfin ça dépend comment on le prend. Ça, cette forme scolaire est aujourd'hui questionnée par le numérique, mais elle reste incontournable, et c'est probablement ça, un des éléments qui font que ça ne changera pas. Peut-être. Les innovations, inventions sont autant d'occasions d'élargir le champ des possibles, mais attention, les inventions, les innovations ne diffusent pas. On peut faire autant de forums des enseignants innovants, et comme je suis le président du Café Pédagogique, je sais de quoi je cause, on peut en faire des dizaines, des centaines, ce n'est pas pour ça, et je l'ai même dit à Françoise Croze qui a longtemps travaillé sur l'innovation, c'est pas pour ça que ça se diffuse. Non, il y a une hypothèse, si on veut diffuser les évolutions, c'est le niveau de l'établissement. Il faut d'abord travailler au niveau de l'établissement, si vous voulez diffuser, c'est ce niveau-là. Mais ça suppose que le management, et on a évoqué ce matin les chefs d'établissement, et je pense que là le Dan a tout à fait raison, c'est autour du management des chefs d'établissement que se fait cette question. Et je peux vous dire, pour travailler de temps en temps avec les ZEN, que cette question-là est actuellement en cours de discussion, à tout niveau, même si elle n'est pas résolue. Alors, on va terminer sur des questions, puis ce sera les vôtres après. Alors, réconcilier les jeunes avec les enseignements traditionnellement qualifiés de généraux, ça me paraît être important, mais on ne les réconciliera pas sur la base de ce qu'ils sont actuellement. Donc, le numérique doit permettre d'inventer le moyen de réconcilier. Mais c'est les contenus hein, qui sont importants, ce n'est pas l'enseignement hein, lui-même. Intégrer les cultures numériques dans les pratiques d'enseignement, à commencer par votre culture numérique. Vous n'intégrerez pas une culture numérique si vous êtes étrangère. Et il est important qu'on mette les mains dans le cambouis. Je rappelle aux enseignants que apprendre, ça prend du temps. Même le numérique. Même apprendre le numérique, ça prend du temps. Or, je me suis aperçu, ça fait que j'ai formé pendant 30 ans des enseignants au numérique, qu'un des grands défauts des enseignants, c'est qu'ils ne veulent pas apprendre. Je vous promets. Et vous qui êtes formateurs, la plupart d'entre vous, vous avez dû vous apercevoir qu'on a parfois quelques difficultés. Mais je suis méchant, hein, c'est une provocation, excusez-moi. Engager les jeunes vers l'autodirection, ça me paraît être un pari extraordinairement fort. C'est-à-dire amener les jeunes à devenir responsables, mais pas seuls. Du coup, accompagner, faire chemin avec et pas contre. Ce matin, votre Dan, il vous a expliqué c'est comme ça, puis il a dit qu'il se mettrait comme ça. Et moi, j'ai envie de dire, non, moi, je vais me mettre avec vous. Je vais me mettre là. Et on va travailler ensemble. L'idée, c'est que si on est ensemble, ce n'est pas pour travailler l'un contre l'autre. Et lorsque j'animais l'atelier que j'ai fait à la FAE au mois d'avril, ce qui était extraordinaire avec la jeune femme qui était en prépa, c'est que justement on a pu travailler ensemble et qu'on a pu montrer que c'est ça et que même elle le vivait avec ses enseignants. Elle disait, c'est amusant, hein, elle était en prépa à Federbe ici, elle disait, c'est intéressant parce que nos enseignants, hein, ils sont pas là pour nous enfoncer. On a l'impression même que c'est eux qui passent le concours avec nous. Et dans leur façon d'être, hein, on n'était pas encore arrivé au concours, mais elle disait, dans la façon d'être, elle disait, mais ils se comportent comme si eux aussi préparaient le concours avec nous, et donc ils avaient l'intention de nous faire progresser, à travers nous, ils passaient le concours. Alors, on est en prépa, etc., c'est, bon, d'accord, mais il n'empêche que dans l'état d'esprit, et dans l'image que l'on a de la relation enseignant-enseigné, moi je trouve ça particulièrement intéressant. Et sur le plan du fondement culturel du métier d'enseignant, dire que quand j'enseigne, je fais chemin avec et non pas chemin contre, déjà c'est un renversement. Et puis évidemment, c'est là où d'ailleurs souvent on fait contre au lieu de faire avec, c'est le problème de la structuration. C'est-à-dire que nous arrivons avec des contenus pré-structurés. Nous avons des programmes, nous avons des connaissances qui ont été figées. Et on impose cette structure. Cette structure peut être bonne ou mauvaise parfois. Le problème, c'est que ce n'est pas l'imposer qu'il faut. C'est qu'il faut que les jeunes puissent comprendre l'importance de la structure en fonction de ce qu'ils apprennent. Le problème, c'est qu'on impose la structure et que du coup, la structure s'empêche aux jeunes de construire eux-mêmes. D'où accompagnement et structuration sont les deux piliers de la pédagogie qui peut se mettre en place dans un contexte dans lequel il y a énormément d'usage du numérique. Parce que c'est indispensable d'accompagner et c'est indispensable de structurer. Je vous remercie. Bon, comme vous avez pu le constater, je suis bavard.
C'est pas gênant, c'était votre fonction ici. Donc...
Oui, c'est vrai que j'étais venu pour ça, c'est vrai aussi. Mais je suis venu aussi pour vous laisser la parole et puis pour échanger. Et puis,
Des questions dans la salle ?
C'est un peu brut, ça, c'est un peu brutal. Mais on peut se donner le temps de discuter tranquillement.
Oui.
Oui.
La question de la diffusion nous, nous intéresse particulièrement. Vous êtes devant un public d'inspecteurs et fondateurs. Donc notre question n'est pas tant celle de faire naître des pratiques ou de l'innovation. Voilà, nous avons des enseignants aussi présents qui sont en général dynamiques, intelligents, enfin, pour toutes les qualités.
Exact.
Leur
oui, ils sont tous là. Ils sont tous là. Mais alors, les 10 000 autres, ils sont où?
La question qui se pose à nous après, c'est comment finalement prendre appui sur le numérique pour à la fois bouger les pratiques et puis finalement peut-être faire évoluer l'école vers une rupture qui s'annonce.
Oui.
Qui prendra le temps qu'elle prendra, ouais. Mais qui s'annonce tout de même.
Alors, moi, je vous avoue que malheureusement, je suis très optimiste et très pessimiste. Alors, je vais vous dire pourquoi je suis très optimiste. Parce que je pense que, c'est la même raison va arriver aux deux extrêmes. C'est que, de toute façon, on est arrivé où l'école est à bout de souffle. Le système scolaire est à bout de souffle, tel qu'il est structuré. Mais il est à bout de souffle en fonction de la société dans laquelle nous vivons. Il ne répond plus à la façon dont les gens comprennent le monde. Alors évidemment, ils résistent. Pourquoi ? Parce qu'on a tous, dans notre imaginaire, on a quand même deux siècles dans le dos. Hein, depuis la Révolution française, on a ça dans le dos. Donc, on ne changera pas du jour au lendemain. Alors maintenant, comment faire? Je ne suis pas sûr d'avoir de bonnes réponses. En tout cas, j'ai des pistes d'action. La première chose, c'est peut-être de regarder les jeunes et d'essayer de leur ouvrir des espaces. C'est-à-dire que moi, je suis très optimiste de ce côté-là. Je suis comme Michel Serres. Hein. Il faut faire confiance aux jeunes. Mais pour faire confiance aux jeunes, il faut leur donner des espaces. C'est-à-dire que je pense qu'il faut permettre aux enseignants, à nos collègues, hein, de s'offrir des espaces. Alors, oui, des espaces de liberté. On a trop d'espaces de contraintes, on se met des contraintes. Moi, j'entends toujours dire « Ah oui, mais tu comprends, il y a le programme à finir. Ah oui, mais tu comprends, il n'y a pas la place, etc. » Essayons d'ouvrir des petits espaces, déjà. Parce que, dans ces petits espaces, d'abord, les gens ont tous les enseignants, alors, tous, oui, 99,9% des enseignants, vous choisirez le dernier après, ont une marge d'innovation personnelle, qui est différente les uns des autres, mais qui est capable. Le problème, c'est que beaucoup d'entre eux, ils ont fait comme les élèves. Ils ont enterré leur marge d'innovation. Donc il faut rouvrir la boîte à innovation. Innovation personnelle, hein, pas innovation forum des enseignants innovants. Hein, non, non, innovation personnelle. Donc il faut essayer d'offrir des espaces de liberté. Alors, je sais que la notion d'autonomie est extrêmement combattue. En disant, faut pas laisser les établissements autonomes, faut pas laisser les enseignants autonomes, etc., etc., malgré les discours. Et il suffit de voir la guerre qui a été faite contre la tentative de donner plus d'autonomie aux chefs d'établissement en matière de suivi pédagogique pour comprendre que, évidemment, ça a été l'autonomie. Il faut surtout pas. Les universités, c'est la même chose. On voit bien, on veut bien être autonome, mais dites-nous ce qu'il faut faire quand même. Hein. Donc, je pense qu'il faut, il va falloir avoir l'audace de laisser de la liberté. Alors, ce que j'observe, c'est que tous les enseignants qu'on appelle innovants ou ceux qui essayent de faire des choses, en général, ils se sont pris des libertés. Ils se sont même mis parfois en infraction, je dis bien en infraction, avec le règlement. Il y en a quelqu'un qui en a parlé ce matin sur du smartphone, ils se sont mis en infraction. Et puis au bout d'un moment, on a dit « Ah, mais c'est quand même intéressant ce qu'on fait ». Du coup, l'infraction est devenue la norme. Et je crois qu'on a tout à gagner à laisser des espaces de liberté. Alors, maintenant, ces espaces de liberté, il faut les habiter. C'est-à-dire que, j'ai évoqué tout à l'heure le niveau de l'établissement. Alors, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut développer la fonction d'animation TIS dans les établissements. Et à condition que ce soit une vraie fonction d'animation TIS et que ceux qui la font ne soient pas des animateurs techniques, mais bien des animateurs pédagogiques. C'est-à-dire qu'ils aident à inventer. Je crois que ça, c'est le deuxième point. Le troisième point... c'est malheureusement, alors c'est quelque chose que je constate, on fait une expérimentation actuellement en Saône-et-Loire autour d'histoire de tablettes et de pédagogie, et on a, une enseignante nous a dit, je sens qu'il y a un potentiel, alors elle dit, on lui donne une tablette, on lui dit, il faut essayer, elle dit, je sens qu'il y a un potentiel, parce que c'est une enseignante formatrice très 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 dynamique, au rectorat et tout, et dans son établissement, vraiment bien, mais elle dit, je sens qu'il y a quelque chose, mais j'ai pas d'idée, ou j'arrive pas à trouver quoi. Autrement dit, il y a une sorte de blocage de l'imagination pédagogique. Et pourtant, je vous l'ai dit, il y a des ressources partout. Il y a des ressources partout. Mais, en fait, ce n'est pas parce qu'il y a des ressources partout, c'est parce que les gens sont probablement bloqués. Alors, est-ce que c'est un manque de culture pédagogique? Est-ce que c'est un manque de collaboration avec les collègues? Est-ce que c'est un manque, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'on sait vraiment, très souvent, la plupart des enseignants sont pris dans un carcan qui fait que si on ne leur laisse pas cette marge de liberté et si on ne leur donne pas éventuellement régulièrement et en proximité les moyens de bouger un tout petit peu les choses, hein, ce qu'on appelle l'innovation de proximité, je crois qu'on n'y arrivera pas. Alors, ça, c'est les premiers pas. Alors, attention, je vais vous raconter une petite histoire avec cette même enseignante formatrice et vous allez comprendre. Hein. L'enseignante reçoit la dotation matérielle. La première chose qu'elle fait, alors on lui dit, on vous demande de faire des séances pédagogiques avec votre appareil, etc. La première chose qu'elle fait, c'est d'avoir un cours d'une heure avec la machine. Ah là là, c'est en anglais, hein, c'est en anglais. Une heure. Bon. Et alors, elle reprend le travail, et puis elle nous dit, non, non, mais en fait, c'est une ânerie. Il ne faut jamais faire une heure avec la tablette. Ça ne sert à rien. Et du coup, elle est rentrée dans un système hybride. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte, si vous voulez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier réflexe, quand on vous donne du matériel, c'est faut faire avec. Faut se méfier de l'injonction, faut faire avec. Pour ça, je parlais du à portée de la main. C'est-à-dire qu'il faut autoriser un usage pertinent de 3 minutes dans une classe de la tablette, plutôt qu'un usage d'une heure en continu d'une salle informatique dont on ne sait pas quoi faire. La salle informatique a généré ça, par exemple. Elle a généré ça, tu comprends, ça fait 3 mois que j'ai réservé. En plus, je me suis assuré que ça marchait. J'ai passé une heure avant à la mettre en route, j'arrive dans la salle, je vais quand même faire de l'informatique. Donc on a ça. Et donc c'est tout ce contexte-là qu'il faut arriver à faire bouger en même temps. Et le faire bouger, c'est qu'effectivement, on a une chance, c'est que... Et là, je vais être très critique avec ce qui s'est dit ce matin sur les tablettes attribuées par le Conseil régional. J'ai envie de leur dire, ah bon, vous avez mis des tablettes? C'est comme le Conseil général du Jura qui a fait la même chose, hein, 6 000 tablettes en Jura. Mairie d'Angers, 5 000 tablettes. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Ah, c'est parce qu'il y a des élections bientôt? Ah d'accord, je comprends mieux, hein, d'accord. Okay. Et la pédagogie là-dedans? Ah bah attendez, il faut qu'ils l'utilisent, moi j'avais un retour sur investissement sérieux. Oui, mais attendez, si vous aviez pensé un petit peu en amont. Moi j'ai vu plusieurs projets, là on accompagnait un projet où c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on ne se rend même pas compte de la responsabilité qu'on a vis-à-vis même du simple public des parents et des élèves. On leur met une tablette, puis on ne sait même pas pourquoi faire. Alors on dit aux enseignants, inventez. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ben, les enseignants, ils font d'abord ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire ce qu'ils font le plus traditionnellement. Donc ils reproduisent, on l'a dit ce matin, hein, ils reproduisent techniquement ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire que si on leur donne un vidéoprojecteur, ils vont encore faire plus de vidéoprojecteurs. Si on leur donne un TBI, ils vont faire encore plus de frontal, etc., etc. On le sait, c'est classique. Hein, Geneviève Jacquinot l'écrivait dès les années 60 en disant « Toute pratique, toute intégration d'une technologie nouvelle dans un monde de l'enseignement commence par renforcer les pratiques archaïques. » C'est après... Donc il faut accepter ce passage par les pratiques archaïques, qui est un temps, puis à un moment, il faut induire petit à petit. Parce que ce passage par les pratiques dites archaïques, pour peu qu'il ne soit pas renforcé par une institution, ce qui pour l'instant est le cas pour en particulier la vidéoprojection et l'enseignement massé, hein, mais il y a une autre raison à ça, hein, qui est la forme scolaire. Eh bien, pour peu qu'on ait ça, en fait, c'est la marque de l'acculturation. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'incertitude. L'enseignant a peur de l'incertitude. Pourquoi? Parce que c'est une forme de vraie ou fausse conscience professionnelle. Il ne veut pas, il ne souhaite pas qu'il soit mis en difficulté devant le groupe d'élèves. Il ne veut pas que ça fonctionne pas parce qu'il a l'impression qu'il ne fait pas bien son boulot. C'est légitime. Donc il faut d'abord qu'il s'installe dans une pratique stable, qu'il contrôle bien. Mais il ne faut pas qu'il s'en contente. C'est-à-dire qu'il faut nous pousser petit à petit ce que j'appelle moi l'écart d'innovation acceptable. Chacun a un écart d'innovation, 99,9% ont un écart d'innovation qu'ils peuvent mettre en jeu. Mais comment le faire? Il faut donner des espaces de liberté, il faut y aller progressivement, il faut être patient, mais donner des espaces de liberté. Le problème, c'est que très vite, il n'y a pas ces espaces de liberté. Et il faut les coupler avec, évidemment, un accompagnement qui rassure. Rassurez les enseignants. Je dirais, s'il y a une première chose à faire, rassurez-les. Rassurez-les. C'est pas bien grave. Tu peux essayer. T'as le droit. Soyez. Moi, j'ai été étonné. Chaque fois que j'ai fait ce travail-là, les gens étaient vachement contents. Ils disaient « Ah, je suis déculpabilisé. » Je vous dirai exactement ce que je leur dis. Hein. Je leur dis « Moi, je préfère un enseignant qui n'utilise pas le numérique et qui enseigne bien, mais qui ?» Un enseignant bon, qui utilise le numérique, mais qui fait des merdes avec. Bon, d'accord. Bon, ça, c'est nul. Par contre, je dis « Mais par contre, un enseignant qui n'utilise pas le numérique a le droit de ne pas l'utiliser, mais il n'a pas le droit d'ignorer le fait numérique dans la culture de ses élèves. » Autrement dit, un élève qui lui dit, vous savez, c'était comme ça pour la télévision avant, mais j'ai vu ça sur Internet, ah non, Internet, je n'en veux pas dans ma classe. Non, alors là, il fait une faute professionnelle. Là, c'est une faute professionnelle. D'accord? Mais l'utilisation technique du matériel, pour moi, ce n'est pas un impératif. Parce que l'utilisation peut être faite par les élèves en amont du cours, en aval du cours, dans les centres de documentation, ça peut être fait en vie scolaire. Moi, je vous incite beaucoup à équiper la vie scolaire, hein. Les lieux de vie scolaire sont des lieux qui normalement avec les centres de connaissances et de culture, les centres de CDI devraient être des lieux dans lesquels il y a régulièrement du numérique accessible pour les élèves. C'est important. Est-ce que vous avez vu la vidéo de Chanteloup Lévigne, de l'établissement de Chanteloup Lévigne qui utilise justement cette technique là? Vous voulez que je vous la montre? Ça vous dit? J'ai essayé de vous la montrer, j'ai essayé de la retrouver rapidement. Alors, quelle est l'idée, si vous voulez? L'idée, c'est que, en fait, tout ça, ça se fait dans un contexte plus général. Alors, je vais essayer de la chercher au bon endroit. Normalement, elle doit être quelque part par là. Je ne sais pas si c'est là ou si sur l'autre. Présentation de tablette U, c'est pas celui-là. C'est là, c'est... Voilà, celle-là. Alors, je vais vous montrer celle-là. J'espère qu'on va pouvoir entendre. J'ai mis le son ici. Sinon, je mettrai le micro. Hein. On va voir si ça marche ou pas. Alors, laissez le temps à FLC de faire son œuvre. Voilà, ça va partir. Alors. Vous entendez ?
Bon, le Conseil général,
c'est pas le Nirvana, hein, mais
sous l'impulsion du Conseil général, ont eu un projet vraiment de grande qualité, je trouve, puisque il s'agit ni plus ni moins que d'imaginer les espaces de travail dans les locaux, donc des collèges du futur. Alors, pour se lancer dans une telle démarche, nous nous sommes dit qu'il fallait, avec le Conseil général, lancer un projet à partir de ce que l'on connaît des espaces disponibles d'ores et déjà dans les collèges du département.
Le collège est d'abord une petite structure, c'est un petit établissement à taille humaine, il n'accueille que 250 élèves. Ce sont des conditions de travail extrêmement favorables. Il a été créé il y a 20 ans, mais parfaitement bien conçu. On le voit notamment avec la vie scolaire, où l'accueil, le foyer, la salle de permanence et le CDI se retrouvent sur un même espace. Donc on part sur une base qui est très cohérente et très pertinente pour pouvoir travailler. À mon arrivée au collège, on a fait le diagnostic avec les équipes. Ce qui est ressorti avec le plus d'importance, c'était le manque d'autonomie des élèves et le fait qu'ils soient acteurs de leur apprentissage. Donc en fait, depuis 4 ans, on travaille sur ce sujet-là, à les considérer non pas comme membres d'une classe, mais vraiment en tant qu'individus, avec ses besoins, son parcours, ses parents également, que l'on doit accueillir dans l'établissement.
Nous allons donc voir quel est le rôle du cœur et son fonctionnement. Donc la première partie de la salle ici va pratiquer la dissection. Donc dans leur travail en autonomie, là ils sont en binôme. Donc ils ont chacun une fiche, ils ont leur manuel scolaire et un dictionnaire. Alors il est vrai que pour pouvoir les aider, je vais devoir me déplacer de binôme en binôme. Alors que s'ils étaient, on va dire, disposés d'une façon différente, par exemple des petits groupes de 4, ça me permettrait en me déplaçant de donner l'information à ce groupe de 4 et travaillent en autonomie, qui mutualisent leurs informations, qui se posent des questions, qu'ils se mettent certains en accord, d'autres dire ben non, je ne suis pas d'accord.
Les professeurs ont développé donc un travail collaboratif sur des projets, sur de la recherche de résolution de problèmes, et la plupart ont changé l'aménagement de leur espace classe pour favoriser ce travail de groupe. Mais il reste maintenant des salles qui sont, qu'on ne peut pas changer, comme les salles de sciences, puisque les salles de technologie, elles, se sont déjà adaptées à ces nouvelles pédagogies, mais les salles de sciences, pas encore. Et les professeurs sont confrontés à ce problème d'avoir toujours ces rangées de tables et une relation très frontale avec leurs élèves.
Alors la rencontre que nous avons eue avec le Collège Magellan a été tout à fait intéressante, puisqu'ont été abordées des notions d'actualité pour le futur également, qui sont traditionnellement évoquées dans les architectures, mais qui ont une résonance particulière appliquée à la pédagogie. On évoque par exemple la question de la flexibilité des locaux, la question de la fluidité des circulations, la question de la banalisation des locaux dans des pratiques pédagogiques qui aujourd'hui sont des pratiques très diversifiées. Les formats pédagogiques, on le sent bien, vont s'ouvrir, vont se diversifier, se décloisonner, se personnaliser.
Alors donc l'architecture du collège a été très bien pensée, puisque ce collège est très compact. Il est organisé autour d'une passerelle sur deux niveaux, et ce qui, je pense, favorise la cohésion de la communauté éducative à l'intérieur de l'établissement. Aujourd'hui, néanmoins, on se trouve confronté à des choses qui nous bloquent dans notre projet, notamment au niveau de l'accueil.
On sent qu'il y a un vrai sentiment d'appartenance chez les élèves, c'est leur établissement, ils s'y sentent bien et ils viennent. L'accueil des familles reste quand même un point noir dans le collège, puisque vous pouvez remarquer que la vie scolaire est mal placée et que les lieux sont peu propices à la confidentialité, à la discrétion. Donc on peut le voir par les baies vitrées qui sont ici, il y a un vis-à-vis qui est énorme. Donc là, quand on voit les élèves qui passent, quand je suis en entretien par exemple avec un parent, c'est assez difficile de maintenir une attention. Mais également par rapport à la porte qui est juste à côté de moi, qui donne sur la salle de permanence. Quand la permanence est bruyante, c'est vrai que c'est très gênant pour moi dans les entretiens.
Mais la réflexion engagée dans ce collège nous paraît tout à fait intéressante, d'abord parce qu'elle est innovante et en même temps elle s'inscrit dans la politique ministérielle, la volonté du recteur dans son projet Horizon 2015, à la fois de faire évoluer les espaces documentaires et à la fois sur la vie scolaire, de prendre en considération davantage, pour la réussite des élèves, en tout cas prendre en considération la vie élève.
a souvent des deux personnes qui viennent travailler. Bon, certains ont CDI ou en classe normale. Depuis septembre, on a les PC de l'autre côté. Donc du coup, bon, on n'a pas beaucoup d'élèves en permanence parce qu'on les emmène à côté en classe normale ou au CDI.
Ce nouveau lieu de connaissance et de culture proposera à l'élève une nouvelle façon de travailler, et selon différentes modalités. Soit l'élève viendra au CDI pour travailler librement et effectuer une recherche à partir des ressources qui sont proposées ou qui sont disponibles en ligne, soit il y aura un cadre d'un travail de groupe ou de classe pour faire ses recherches, donc approfondir ses connaissances, mais aussi avoir des activités de loisirs, de lecture, d'ouvrages, de découverte de documents qui seront mis à sa disposition.
Donc le projet a aussi un volet d'aménagement des espaces pour fournir aux élèves de nouveaux espaces de travail, où ils pourront être un peu plus autonomes dans ces espaces de travail, et également où ils pourront trouver une certaine qualité d'équipement, d'ordinateurs, de mobilier. Donc on a commencé par l'aménagement d'un espace de travail attenant à la salle de permanence avec un équipement qui ressemble à un bureau plutôt qu'à une salle de classe, pour être vraiment dans cette qualité que l'on veut donner aux élèves. Ils le respectent globalement, il n'est pas du tout détérioré. Ils ont un équipement informatique aussi de qualité. On voudrait poursuivre ce projet au niveau du CDI, en équipant également le CDI avec d'autres outils informatiques et en l'agrandissant pour fournir d'autres espaces de travail aux élèves ou aux classes aussi, pour pouvoir accueillir les classes, parce qu'ici c'est un peu petit pour les groupes classes, avec un tableau numérique interactif, avec un équipement de travail plus, de meilleure qualité. L'option DP3 a pour projet la création d'une mini-entreprise. Donc là on se trouve avec des élèves de 3e qui ont appris l'autonomie depuis la 6e, donc on arrive au bout du processus, on les prépare au lycée à travailler en groupe et seul, à organiser leur travail, à organiser leurs tâches, à définir leurs tâches. Et dans le cadre de cette mini-entreprise, c'est vraiment le projet IDOAN pour développer ces compétences-là.
Naturellement, sur ce type de projet, on ne peut qu'être en partenariat avec, pour l'éducation nationale, le porteur des ressources pédagogiques. Pour le département, c'est la Maison de l'éducation des Yvelines, le CRDP. Or, il est totalement en pointe en France sur tout ce qui concerne la ressource pédagogique par le numérique. Alors, il est très important qu'ils soient associés dès le départ et qu'on réfléchisse à trois, Conseil général, Éducation nationale, Inspection académique et CRDP, sur les évolutions possibles de ces espaces. C'est notamment vrai parce qu'on sait par ailleurs que le numérique sera vraisemblablement le vecteur privilégié de l'enseignement et des apprentissages des élèves.
Déjà au collège, on a désormais une classe nomade, donc déjà ça nous améliore pour pouvoir faire nos devoirs, tout ça. On a Internet, encore une fois, qui pourra nous aider sur certains documents, et voir carrément avoir chacun un ordinateur, puisque là c'est vraiment une petite classe, avoir carrément chacun un ordinateur, pouvoir vraiment travailler beaucoup plus facilement en autonomie seule, parce que là on n'a pas de professeur pour nous aider, on a juste les surveillants qui peuvent nous aider, mais par exemple en mathématiques, tout ça, ils vont pas savoir forcément la chose exacte, que sur Internet on va avoir des aides, des cours en ligne, tout ça, ce sera plus pratique.
Ben déjà je pense que les tablettes ce serait bien, puisque les profs pendant ce temps-là, ils pourront aider ceux qui n'ont pas vraiment compris du premier coup, pendant que les autres peuvent avancer dans le chapitre, par exemple, ou ce genre de choses.
Avoir une pièce, par exemple, on a le CDI, cette pièce, parce qu'on a les livres, on a la paire, on voit ce que ça va être un moment, et la classe nomade qui va être un moment avec informatique. On devrait avoir une autre, une petite pièce, parce qu'on pourrait se retrouver à un petit effectif, où est-ce qu'on a un moment de libre, on pourrait pratiquer des sociétés, tout ça. Avoir une salle où est-ce qu'on est plus libre que dans une salle de cours. Voilà.
Les profs, je les verrai toujours aussi, en fait, avec une joie de vivre. Parce que j'aime bien voir les profs quand ils rentrent dans la salle, ils sont contents, parce que ça nous donne envie de travailler. De une, ça je trouve ça très important, la joie de vivre. Et ensuite, et aider les élèves comme ils le font là. C'est un progrès. Ils essaient de trouver plus de méthodes pour aider en fait l'élève à progresser. Et ça, c'est bien. Et moi, je les encourage juste à continuer à être comme ils sont. Ils sont super, quoi. Je sais pas. Franchement, ils sont vraiment bien.
Bon, voilà, c'est uniquement un exemple, hein, qui vaut, comme tous ces exemples-là, si vous voulez, c'est vraiment... Mais ce qui est intéressant, et pourquoi je le montre très souvent, ce passage-là, c'est pas parce qu'il est exemplaire et qu'il est à imiter, mais c'est parce qu'il montre comment toute cette question de l'évolution des pratiques n'est pas que seulement un problème d'équipement, pas seulement un problème de formation, c'est aussi un problème de projet, d'espace. On a intérêt à essayer de travailler sur... ce sont toutes ces variables-là qu'il faut essayer de faire évoluer. Je vois quand même, il y a des établissements scolaires dans lesquels on peut quasiment rien faire à cause ne serait-ce que de la sonorité des locaux, à cause de l'espace qui est laissé, vu le nombre d'élèves par classe. Il y a des choses qui sont complètement incohérentes. En fait, on a inscrit dans un certain nombre de structures, malheureusement, trop de choses immuables qui font qu'on peut vouloir faire tout ce qu'on veut, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est dramatique.
Oui, mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les structures où on peut faire quelque chose. Et il y en a.
Il y en a, bon, tant mieux.
Je comprends ce que vous dites, c'est que globalement, ça joue à l'échelle de l'établissement.
Oui, ça, c'est clair. Ça.
Il faut prévoir un espace de liberté aux enseignants, en tout cas aux différents acteurs, pour qu'ils puissent s'approprier les choses. Cette appropriation passe par une phase dans laquelle c'est outil pour outil, à tout craint, bref, pour donner ce qu'il fallait, en quelque sorte.
Tout à fait.
Et ça nécessite après un accompagnement.
Un accompagnement de proximité.
De proximité.
Pas seulement de la formation. Alors, je reprends, quand on parle de type de modèle de formation, moi, je crois qu'il y a trois niveaux de formation différents. Il y a un premier niveau qui est le niveau qui est la journée, le stage où la personne sort de son établissement, vient travailler sur un objet bien précis et revient dans son établissement après. Les gens en ont besoin, parfois pour des fonctions d'ailleurs qui n'ont rien à voir avec le stage, mais c'est pas grave, ça a une fonction sociale aussi, elle n'est pas inintéressante. À condition que les gens y viennent volontairement et qu'ils sachent pourquoi ils y viennent. Je dis ça parce que j'ai eu malheureusement des histoires assez tristes. La deuxième, c'est ce qu'on appelle les formations intra. C'est-à-dire le fait que pour qu'une formation puisse être réinvestie rapidement, il faut qu'elle soit adaptée au contexte dans lequel les gens vont pouvoir la mettre en œuvre. Alors ça a un an, deux ans, trois ans selon les mutations, mais que ce soit au moins adapté à cela. Parce que souvent on dit « Ah ouais, j'étais ça, c'était génial, hein, c'était génial. Faudrait qu'on achète ça. » Alors on achète, évidemment, et puis on revient, et puis on n'utilise pas. Parce qu'en fait, derrière, il y a d'autres variables de contexte qui n'ont pas été prises en compte. Et les formateurs qui interviennent en intra doivent être extrêmement conscients, justement, de cette approche systémique qu'il faut avoir. C'est-à-dire que le formateur qui intervient dans l'établissement doit prendre en compte un certain nombre de paramètres qui ne sont pas toujours très sympas d'ailleurs, qui font parfois qu'on se dit « de toute façon, j'y arriverai pas hein. ». Mais le formateur qui intervient en intra doit être très très à l'écoute, par exemple, du management, par exemple, quel type de management est adopté, la configuration des locaux, les moyens retenus, etc. Quand on fait une préparation de formation, par exemple, on essaye d'avoir un maximum d'informations sur le mode de fonctionnement de l'établissement. Et puis, ça c'est le deuxième niveau, donc avec une intervention ciblée. Alors, dans les établissements dans lesquels ça peut se faire, la première entrée, c'est souvent l'entrée disciplinaire. Moi, je conseille souvent de faire une entrée disciplinaire avant d'entrer dans des trucs plus pédagogiques. C'est que je suis un peu, peut-être un petit peu frileux en disant ça, mais je l'ai fait ici. La première entrée, elle est d'abord l'identité de l'enseignant, c'est sa discipline. En particulier dans le secondaire. Dans le primaire, c'est un peu différent, mais dans le secondaire, l'identité, c'est la discipline d'enseignement. Et là, on peut avoir des entrées. Parce que très vite, quand vous commencez à parler en didactique, ben très vite, vous passez en pédagogie. Mais si vous commencez par la pédagogie, il y a quelqu'un qui va dire « Oui, mais moi, dans ma discipline... Bon, » Et là, si vous n'êtes pas suffisamment compétent en tant que formateur, si vous ne connaissez pas suffisamment toutes les autres disciplines, oula, vous pouvez vous faire bousculer. Donc, vaut mieux organiser des formations ciblées, par exemple, sur un groupe disciplinaire qui veut avancer, sur les projets par groupe disciplinaire, et puis peut-être parfois ça SM à l'intérieur de l'établissement. Ça, c'est le troisième niveau de formation, ce qu'on appelle l'accompagnement de proximité, qui se traduit de deux façons. L'accompagnement, c'est une personne ressource qui, dans l'établissement scolaire, comme ça s'est fait il y a plusieurs années déjà, depuis plusieurs années, par exemple dans l'Académie de Poitiers, ils avaient formé des gens, avec l'université, on avait formé des gens pour aller dans les établissements scolaires, enfin qui étaient enseignants et qui avaient des heures pour faire ça auprès de leurs collègues. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est l'animation. Parce que, alors, je vais être un peu méchant, mais malheureusement, c'est ce que j'ai encore observé récemment. Les spécialistes des technologies ne sont pas forcément les meilleurs dynamiseurs des équipes. Ils font parfois l'effet inverse. Si vous êtes trop techno, par exemple, si vous intervenez trop techno, ah là 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 là, vous pouvez si vous n'êtes pas du tout au fait de la discipline, hop, vous pouvez. Donc, il faut être très très prudent. Et j'ai même vu certains formateurs, là c'est honteux, mais ça arrive, quasiment utiliser un jargon suffisamment pointu techniquement, noyer les gens sous de la technique, comme ça au moins les gens disaient ah oui, oui, hein, c'est... qu'est-ce qu'il est costaud, hein. Nous on ne pourrait pas. Alors du coup, ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que ça fait l'effet repoussoir. Donc faire très attention, une personne ressource TIS dans un établissement scolaire, c'est quelqu'un qui s'est accompagné et structuré, pas quelqu'un qui fait à la place d'eux. Et ça, malheureusement, moi je l'ai vu, avec, j'ai fait tout un travail auprès, alors ça c'était en primaire par contre, dans la région, à Lyon, avec le CETIS et puis la cellule TIS de Lyon, en primaire, où les gens disaient, il y avait 13 personnes qui travaillaient dans ce service-là sur l'ensemble du département du Rhône, et ils me disaient, bon, ils sont répartis par secteur en primaire, et ils me disaient, oh, ben, de toute façon, nous on est là pour accompagner la pédagogie, mais 90% de nos interventions c'est de la technique. Alors, évidemment, quand vous basculez de l'un à l'autre, l'accompagnement il change de nature. Donc là, c'est pas simple. Malheureusement, ça, c'est... Et puis, il y a ce qu'on appelle le travail avec les pairs. Alors, je vais vous raconter une anecdote qui remonte à une trentaine d'années, mais on avait organisé à l'intérieur de l'établissement scolaire, tous les 15 jours, il y avait un échange de pratiques. Donc, il y en avait quelqu'un qui centralisait les choses, et puis qui disait, ben voilà, aujourd'hui, on va travailler ensemble telle question, telle question, telle question. Et puis, si on a besoin d'une ressource externe, on allait la chercher, mais on essayait de travailler la question qu'on avait rencontrée avec, dans l'usage des machines. À l'époque, c'était en particulier parce qu'on accompagnait les premiers pas de l'enseignement professionnel. Bon, j'étais un établissement tertiaire, entre autres, dans lequel il y avait du tertiaire. Et le problème, c'était qu'à l'époque, c'était surtout le tertiaire qui en avait besoin. Et donc, pour eux, on avait organisé des ateliers d'échange de pratiques, en disant, mais t'as fait comment? Parce que souvent, c'est là que ça fonctionne. Parce qu'en plus, ça se fait dans le contexte. Si la personne qui est personne ressource locale peut le faire, c'est encore mieux, mais il faut qu'elle s'interdise absolument de faire à la place, mais par contre de faire faire.
Mais donc si on reprend tout ce que vous avez dit, en fait, si on veut essayer de faire en sorte qu'il y ait un mouvement numérique, il faudrait qu'on soit capable d'articuler ces trois niveaux de formation.
Oui.
C'est-à-dire à la fois d'avoir des stages dans lesquels les gens se déplacent, il y a toute la fonction sociale,
oui.
On les connaît, mais elle est utile.
Elle est utile, oui.
De faire vivre aussi les disciplines. Hein.
Tout à fait.
Et qu'après, on trouve en établissement un relais à différents temps.
Voilà.
Alors, c'est justement, je pense, une des questions qui rejoint la politique de formation de l'Académie autour des formations d'établissement et des formations hybrides. Donc, peut-on penser qu'il y aurait quelque chose qui articule les deux dispositifs, c'est-à-dire un dispositif académique qui forme table disciplinaire et l'ensemble disciplinaire, comment résoudre telle situation problème que nous rencontrons tous? Par exemple, amener nos élèves à écrire, à entrer dans l'écriture, à reprendre à l'écrit, qu'il s'agisse de l'histoire, de la géographie, etc. Puis après, de manière plus suivie, des formations en établissement avec échange à distance vers l'accompagnateur. Est-ce que ça serait une formule qui, d'après ce que vous nous dites, permettrait d'accompagner ce mouvement?
Une des formules, c'est effectivement développer une communauté de pratique. C'est d'organiser une communauté de pratique avec des formateurs de différentes disciplines, mais qui acceptent, alors c'est une question de philosophie aussi, qui acceptent vraiment d'échanger les problématiques qu'ils rencontrent, de formaliser ce qu'ils observent, et petit à petit, alors c'est une communauté ouverte, pas une communauté fermée. C'est une communauté ouverte, c'est-à-dire que c'est une communauté qui accepte de faire venir des gens de l'extérieur qui, au fur et à mesure, seraient intéressés par cela. C'est-à-dire que c'est pas un petit truc entre soi, c'est pas le machin entre soi, entre formateurs, on veut se causer entre nous. On peut créer dedans des espaces privés, mais il faut surtout que ce soit des espaces qui puissent être ouverts à d'autres, de façon à ce que, par exemple, l'accumulation de solutions trouvées ici ou là, de problèmes posés, devienne une sorte de savoir collectif élaboré. Donc c'est une vraie politique d'intelligence collective qu'il faut essayer de mettre en place entre les formateurs très spécialistes d'un point, les formateurs, les relais de terrain, qu'ils soient spécialistes ou pas, pour que ça crée une vraie communauté d'accompagnement du développement du numérique. Mais il faut vraiment créer une communauté vivante. Alors, ce qui est très amusant, c'est que cette communauté vivante, elle ne s'improvise pas, elle ne se décrète pas, et surtout elle ne se décrète pas avec les outils. C'est une question de culture. Quand je regarde la création du café pédagogique en 2001, on a démarré un beau matin, c'était au mois d'avril, sur le quai de la gare, à la gare de Lyon à Paris. Au mois de décembre, on avait 30 000 abonnés. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas un miracle, hein, c'est simplement qu'à un moment donné, des gens ont trouvé là une ressource qu'ils n'avaient pas ailleurs. Bon, dans un autre dispositif, on a mis un dispositif de formation où les gens avaient, en fait, c'était un espace d'échange par rapport à des problèmes qu'ils rencontraient. et on avait garanti, alors ça c'est peut-être quelque chose que vous pouvez mettre en place, c'est-à-dire que c'est un forum tout bête, mais un forum dans lequel on avait formé les gens à poser les questions avant. C'est-à-dire que on disait aux gens, par exemple à l'issue d'un stage, voilà, sur ce forum-là, vous allez pouvoir trouver des questions et on vous y répondra et vous pourrez trouver d'autres personnes. Donc on crée une communauté comme ça. Et moi j'étais étonné parce qu'en fait, une communauté comme ça, quand elle est vivante, alors ça suppose évidemment d'avoir des gens qui sont capables d'animer ça, mais quand elle est assez vivante, dans certaines disciplines ça existe d'ailleurs, hein, ça s'est créé plus souvent dans des disciplines d'ailleurs, on peut avoir un véritable accompagnement. Et donc on peut avoir une base de connaissances qui fait que, en fonction du contexte, on sait qu'on va avoir des solutions. Là vous allez déployer un ENT, eh bien c'est intéressant qu'autour de l'ENT, c'est une occasion pour créer une communauté. Ça, c'est un risque, hein. Mais je vois, moi j'accompagne un projet actuellement où il y a 15 établissements scolaires et ils ont mis ce qu'on appelle un base camp. Un base camp, c'est en fait un logiciel qui permet de faire une sorte de communauté dans laquelle on a du dépôt de documents et des forums d'échange. Eh bien, c'est extraordinaire, les gens s'y mettent. Alors pas tous, mais ils savent que là, il y a des ressources. Donc on essaye d'organiser un espace de ressources mutualisé et animé, vivant. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer, par contre ça c'est important en termes de formation, ça a un coût, c'est que... il faut pouvoir payer des formateurs à rester assis devant un ordinateur et répondre à des questions qu'on leur pose à distance. Bon, non, c'est pas un problème, sauf que quand après ça, on va voir des gens pour signer les feuilles d'émargement. Non, mais quand on paye les gens sur les feuilles d'émargement, c'est des problèmes. Hein, c'est...
À titre personnel, je suis loin d'être contre. Après, maintenant, pour faire reconnaître par l'institution ces choses-là, c'est
voilà.
Des discussions qui sont âpres.
Qui sont âpres, ouais, exact.
Sur les niveaux de. Une question, c'est une remarque. Sur les niveaux de formation, en fait, on les a déjà.
Mais évidemment.
Et c'est une culture qui est dans les académies, qui est présente depuis très longtemps. Le niveau de formation de proximité, on est sur les fils, on réfléchit à une nouvelle organisation qui serait la formation d'établissement pour effectivement responsabiliser.
C'est celle-là c'est ce maillon-là qui est le plus faible actuellement.
C'est, même si on a quand même des pratiques qui sont. Oui. Parce que nos fils sont pilotés par les inspecteurs, ils vont voir les chefs d'établissement. Ça se fait, je trouve, sur le terrain, ça existe.
Oui.
Le niveau académique, il existe aussi. Le relais de terrain, il existe sur le papier, puisqu'on a des personnes qui sont... On a des personnes ressources fils, on a des animateurs pédagogiques identifiés, notamment sur le LT. Après, leur niveau de rémunération, d'investissement, de décharge, fait que leur fonction est un petit peu difficile à faire. Il y a un point qui est pas évoqué ici, qui me paraît quand même crucial dans ça, et dans la vie aussi des pratiques, c'est la motivation des personnes qui participent à ça. C'est-à-dire que tant que cette motivation ne sera pas travaillée, tant qu'on n'aura pas des initiateurs de cette motivation, toutes les communautés de pratique, le cas pédagogique, vous avez commencé à 30 000, je ne sais pas combien vous êtes maintenant, mais est-ce que depuis un moment il y a une stagnation ou est-ce qu'il y a toujours une évolution croissante? Est-ce que ce ne sont pas, ce qu'on disait un peu ce matin, toujours les mêmes personnes qui sont présentes ici un vendredi juste avant les vacances, qui ont une certaine appétence pour l'enseignement, pour l'éducation, pour le changement des pratiques, qui participent? Et ce fameux cap de la diffusion, c'est-à-dire passer du local, de l'exotique dont on parlait tout à l'heure au global, c'est là en fait où la formation trouvera ses limites parce qu'on ne peut former que si une personne n'est acteur de sa formation, responsable dans sa formation.
Je vais vous répondre très, très maladroitement, hein, en disant 90-10. 90% de consommateurs, 10% de producteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est condamné à fournir, en espérant petit à petit des retours, et en espérant un développement d'une culture. C'est clair, le moteur est forcément un moteur volontariste d'un noyau qui fournit. Alors, c'est une philosophie, hein. Alors, la plupart des listes de diffusion, je dis bien des listes de diffusion, ont toutes fait comme ça, la courbe c'est ça. C'est-à-dire qu'elles ont monté très vite, elles ont intéressé tout le monde, puis au bout d'un moment, elles ont lâché une partie des personnes, et puis ça finit par un entre-soi. Hein, vous prenez un certain nombre de listes de diffusion, elles finissent en entre-soi. Par contre, je prends le site comme Web Lettres et autres, il y a un effet consommation. Et c'est un des problèmes auxquels on est confronté actuellement, c'est-à-dire que dans la façon dont les enseignants travaillent, il y a un énorme effet consommation, qui fait qu'ils vont piquer plein de choses, hein, ils sont collectionneurs. Hein.
Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, si on est dans un effet de consommation, un peu comme l'élève, s'il n'y a pas de travail qui est derrière, s'il y a uniquement une appropriation d'une pratique d'un collègue, le transfert a un peu de difficulté. On a un peu de mal à faire ce transfert.
Mais c'est pour ça que, alors, on a une expérience qui, moi, m'a beaucoup marqué, alors je vous raconte l'histoire, hein. C'est le problème des suppléants. Alors, je vous explique comment ça s'est passé. Un jour, on avait un problème, c'est que les suppléants, ils n'ont pas le droit de la formation. Puis on les met devant les élèves sans qu'on les ait préparés. C'est la meilleure formation, paraît-il. Non, après les espèces, excusez-moi. Non, mais enfin, ceux-là, ils n'ont pas besoin de formation. De toute façon, vous avez bien vu, de toute façon, puis on ne les gardera pas. Allez. En tout cas, ces gens-là sont confrontés au terrain à des difficultés. Et la première chose qu'on leur a appris, parce qu'ils réclamaient de la formation. Ils disent, on n'a jamais le droit de la formation puisqu'on n'est pas titulaire. On n'est pas statutaire. On n'a pas le droit de la formation. Alors, c'était dans un système un peu particulier. Et on leur a dit, très bien, on va mettre en place quelque chose. Alors, on a mis en place quelque chose, c'était un forum de discussion. Alors, il y avait d'abord 2 jours pour apprendre. Alors, c'était 2 jours de rassemblement au départ, qui leur étaient proposés sur temps de vacances. En leur disant, voilà, vous venez et on vous aide à, utiliser l'outil, une demi-journée. Problématiser, une demi-journée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire participer, poser des questions. 3, commencer à alimenter. Et puis 4, se dire, bon voilà, quel calendrier on se donne. On a été étonnés, hein, on leur a fait ça sur la France entière avec 800 à 900 personnes. C'est incroyable ce que ça a fonctionné. Par contre, les formateurs, il y avait une permanence de formateurs. Tous les 15 jours, il y avait 2 formateurs qui étaient désignés, donc d'une équipe nationale. Ça pourrait être aussi bien, comme vu le nombre de personnes qui sont concernées, ça pourrait très bien être au niveau. 2 formateurs qui étaient chargés de répondre, enfin pas de répondre, d'accompagner les débats, parfois de répondre. Donc première étape, c'était ce forum qui était basé uniquement, et on formait les gens à ça, à poser des questions sur la pratique concrète. Alors, c'était des pratiques très ouvertes, hein. C'était des pratiques, ça touchait toutes les questions, pas que les questions numériques. Ça touchait parfois les questions numériques, mais parfois c'était des questions de discipline, c'était parfois des questions de didactique. Il y a des questions assez diverses. Ce qui est important, c'est que c'est une population qui était motivée. Pourquoi ? Parce qu'elle était dans une situation de précarité. Et face à cette précarité, elle avait besoin de ça. Elle s'est créée, et alors c'est amusant parce qu'elle s'est vraiment créée un savoir collectif. Parce qu'en plus, les formateurs, outre qu'ils accompagnaient, régulièrement faisaient des synthèses sur des thématiques abordées. Ils reprenaient les documents, éventuellement ajoutaient ça et déposaient un document. Ce qui faisait qu'il y avait une vraie construction. Alors, c'est un exemple, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais il a fonctionné, il fonctionne encore aujourd'hui dans un endroit précis. Et ce qui m'a intéressé, moi, c'est le fait que des gens qui rencontrent des difficultés et qui savent qu'ils peuvent être entendus, non pas pour dire j'ai besoin de moyens, de temps, de formation, etc., mais pour dire comment je ferai pour. Et vous, est-ce que vous avez déjà rencontré ça? Eh bien, c'est exactement le comportement qu'ont les informaticiens sur Internet depuis plus de 40 ans. C'est-à-dire qu'ils ont un problème, ils regardent sur Internet, ils vont faire ça. Or, moi j'ai vu un tas de jeunes, mon propre fils faisait ça, il a appris à utiliser le logiciel Blender. Alors, pour ceux qui connaissent le logiciel Blender, c'est pas simple. Eh bien, il l'a appris tout seul. Comment il a fait? Je lui dis, mais comment t'as appris ton truc? Ah ben c'est simple, d'abord j'avais un projet. Il était fou de bagnole, il voulait faire des trucs. 1, il avait un projet. 2, il avait des problèmes à résoudre. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il allait sur les forums au fur et à mesure, il demandait. Jusqu'au jour où, ayant vu ce qu'il avait fait, il a rencontré un gars, ils ont fait un concours, etc. Vraiment, ils ont bossé dessus. Jusqu'au jour où il y a un jeune qui lui écrit, il l'avait vu sur un forum, il dit, est-ce que tu pourrais pas m'aider parce que moi aussi je voudrais apprendre le logiciel. Et du coup, il est devenu enseignant pour les autres. Alors, moi, ça m'avait subjugué, on avait des débats à la maison parce qu'il y passait du temps un petit peu là-dessus. Mais en fait, il était passionné par ça, il produisait des trucs, il s'est fait une compétence qui, évidemment, à l'école, ça ne marchait pas du tout, ça passe ses apprentissages, hein. Mais ça, cette compétence-là, elle n'a pas été vécue à l'école. Il l'a retrouvée dans le monde de l'entreprise après, quand on lui a demandé de faire, parce qu'il travaillait sur le même milieu à peu près, sauf que c'est pas la voiture, mais il a utilisé ses compétences-là, il les a transférées. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit que lorsque quelqu'un est en situation de projet, d'où la nécessité d'insuffler des projets, qu'il sait qu'il a du soutien, pas forcément en présence et à distance, et que derrière, le soutien va être sérieux, il n'y a pas de raison. On crée les communautés d'informatique, d'informaticiens, les communautés de pratique, et là, du coup, on tombe vraiment dans la communauté de pratique. C'est pas simple à créer, ça va pas de soi. Hein, ça va pas de soi.
Une petite question, comment on peut faire en sorte que le numérique soit un besoin pour les enseignants?
Le besoin, c'est la pédagogie.
Voilà.
Ben,
c'est-à-dire que, alors, je vais donner, et puis je vais vous donner la parole juste après, je vais vous donner une indication. Effectivement, le numérique n'est pas un besoin, mais le numérique est un problème. C'est pas tant le numérique en soi qui est un problème, c'est la fonction du numérique, 1, dans la société, 2, par rapport aux jeunes. C'est-à-dire que si les jeunes sont comme ils sont dans nos classes, si la société est comme elle est, c'est parce que le numérique s'est développé à la vitesse qu'elle s'est développée. Je n'ai pas décliné toute la fonction sociale du numérique, mais c'est déjà ça une truc. Alors, comment on le perçoit? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne le perçoivent pas dans leur classe, il y a des gens qui le perçoivent. En fait, je crois que le jour où les gens prennent conscience, parce que moi, quand j'entends des gens, des collègues, alors c'est vrai que c'est des universitaires qui vous disent ça, ils vous disent, mais moi, j'ai devant moi des élèves, des étudiants, ils ont des ordinateurs, je ne sais pas ce qu'ils font. Hein, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dans ce cas-là, on réfléchit à la pédagogie. Voilà. Quand on est comme ça, on a besoin de le faire. Et du coup, ça devient une nécessité. Le problème, c'est que l'école a pour l'instant suffisamment de garde-fous pour empêcher ça. C'est-à-dire qu'on est encore suffisamment sage en classe pour ne pas arriver avec son ordinateur, pour ne pas l'ouvrir. Alors, ça commence à arriver dans les classes de prépa et autres. Même parfois en lycée, on commence à les trouver. Puis des fois, certains enseignants disent « Mais pourquoi vous n'amèneriez pas votre appareil ?» Et les élèves le font. Ou alors, on donne des appareils, on donne des portables. Et du coup, là, ça déstabilise. Et c'est dans ces occasions-là. Autrement, je ne crois pas qu'on puisse faire quoi que ce soit. C'est le déséquilibre pédagogique qui générera. Vous vouliez poser une question ? Alors, actuellement, il n'y a aucun travaux sérieux de publier sur la question. Bon, mais c'est logique. C'est logique. Il y a des gens qui travaillent un peu ici ou là, il y a des gens qui travaillent sur des sujets connexes, mais il n'y a pas de travaux sérieux de fait. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est trop jeune, mais c'est trop jeune en tant qu'appelé classe inversée, mais deux, surtout, c'est que c'est pas nouveau. C'est que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Alors, la réponse que je vais vous faire est une mauvaise réponse, mais je vais essayer de la faire quand même. La première, c'est de dire c'est pas nouveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, le modèle de la classe inversée est un modèle qui existe depuis très très longtemps. Ça s'appelle le CNED. Et en plus, il manque la moitié de l'inversion. En plus, maintenant, ils ont rattrapé un peu le machin. Hein. Mais c'est en gros, on vous amène du contenu, puis maintenant, vous vous débrouillez avec. Et donc, si vous voulez, vous créez des communautés, vous faites ce que vous voulez. Le CNAM, qui était dans cette situation-là, a dès 1993 commencé à travailler ces questions-là. Mais historiquement, en fait, l'école, à l'origine, c'était une classe inversée. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui faisait une conférence, après ça, vous avez 2 heures d'études et d'exercice. En fait, on sait que la digestion des contenus, lorsque c'est des contenus magistraux, la digestion est indispensable. Mais il y a eu une expérience très lourde qui a été menée à l'école des mines à l'Est en 1993 sur le remplacement des cours en amphi par la vidéo du prof, et accompagné de visuels enrichis, parce que les profs utilisaient beaucoup des visuels, et donc les visuels étaient mis plus lisibles, parce que dans l'amphi, en haut de l'amphi, vous ne voyez rien. Hein. Donc ils ont fait ça, et en fait, alors ce sont des élèves école d'ingénieurs, école des mines d'Alès et école d'ingénieurs, et en formation initiale et continue. Et ils ont essayé ça pendant 3 ans, ils avaient fait un truc très sophistiqué, c'est-à-dire que les étudiants n'allaient plus en cours, ils n'avaient plus cours, ils avaient simplement un horaire dans lequel ils pouvaient faire appel aux enseignants. Donc les enseignants étaient à disposition, et eux pouvaient regarder les vidéos. Ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière ça, il y a un autre problème qui est beaucoup plus grave, et c'est ce qui va poser le problème de la classe inversée, ou même des MOOC. C'est le problème que l'on trouve. Alors là, du coup, les travaux, on peut aller les chercher, mais malheureusement, ils ne portent pas forcément sur des publics plus jeunes. C'est les travaux qui sont faits à Paris 10 autour de Philippe Carré, autour de tout ce qui est l'auto-formation. Bon. Ça fait très longtemps qu'on travaille sur l'apprenance, qu'on travaille sur ces questions-là. En fait, ce que l'on sait, et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure les 15 ans ou 20 ans d'ancienneté qu'on a dans l'école, qui nous ont appris à être hétéro-dirigés et ne pas être auto-dirigés. Moi, c'est une question qui m'intéresse depuis des années et des années, enfin, l'auto-formation. En fait, quand on analyse la façon dont se creusent les écarts scolaires entre les élèves, on a une boîte noire qui est ce qui se passe un peu en dehors de l'école. Si vous accentuez ce qui se passe en dehors de l'école et que vous ne le rattrapez pas d'une façon ou d'une autre, vous allez encore creuser la difficulté. Que vous mettiez les exercices en dehors ou que vous mettiez la connaissance en dehors, peu importe, le problème est le même. Pour moi, le problème est le même. C'est-à-dire que on n'apprend pas facilement si on n'est pas extrêmement motivé, si on n'a pas vraiment un objectif d'apprentissage. Et en plus, et c'est ce que nous apprend l'école des mines d'Alès, c'est que le fait de se rendre dans un lieu symbolique, se mettre dans une disposition d'apprentissage, est un des premiers éléments factuels qui vous motive à apprendre. Le fait d'être obligé de venir dans une salle pour écouter un enseignant est un facteur d'apprentissage. Le fait de mettre les vidéos en ligne peut aider à prolonger l'apprentissage. En tout cas, il est, pour l'instant, les élèves sont gentils. Les élèves de Pascal Biouet, en particulier, dont on a vu les vidéos à la télévision, qui étaient au forum des enseignants à Educatis, les enfants sont bien gentils. Mais au bout du compte, quand vous regardez les vidéos qui sont faites, quand vous regardez ce que ça apprend, en réalité, on va très très vite, au bout de quelques temps, on va perdre les élèves. C'est-à-dire que les bons élèves vont continuer à le faire, les élèves un peu en difficulté vont être perdus. Moi, je crois plutôt, non pas à l'enseignement inversé, je pense plutôt à un enseignement mixte. On a parlé d'hybridation, enseignement mixte. Ça veut dire qu'effectivement, il faut mettre moins de temps dans les explications, je dirais, de type magistral, mais il faut les garder quand même. Il faut en garder quand même un certain nombre. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de proximité entre la réception et la compréhension. Et si vous éloignez trop, même physiquement, même symboliquement, la réception de la compréhension, bien vous risquez d'avoir une déperdition. Et ce qui fait que les élèves, et je prends l'exemple des cinquièmes tout à l'heure, ils vont faire exactement comme ça au bout d'un moment. Là, pour l'instant, c'est le début, on est tout feu, tout flamme, ça va bien. Et moi, à mon avis, il va falloir qu'on modifie ces dispositifs. C'est-à-dire qu'en fait, ce soit plutôt une continuité dans laquelle on partage en deux espaces différents, mais qui peuvent être tantôt à l'école, tantôt en dehors de l'école, mais c'est une complémentarité, c'est je sais de toute façon que ce que j'ai fait en classe, je pourrais le retrouver à l'extérieur, et je sais que ce que je fais à l'extérieur pourrait être pris en classe. Donc je pense que le modèle inversé, tel qu'il est présenté en particulier par Mme Annick pour les maths au Québec, est complètement aberrant. Je ne sais pas si vous avez vu son truc, c'est effarant, c'est effarant, c'est illisible, Mme Annick, c'est illisible. Si vous regardez sur Internet, c'est impressionnant. Prof de maths en primaire, cours de maths en primaire, c'est des vidéos, mais bon. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire les élèves avec ça. Sauf que ce que je sais, c'est qu'en classe, et c'est ce que dit Pascal Biouet d'ailleurs. Il dit mais en classe, s'ils veulent, ils peuvent accéder quand même aux vidéos. Parce qu'en fait, la vidéo, ce n'est rien d'autre que le manuel scolaire. Simplement, peut-être un peu mieux fait. On l'espère. Ceci dit, combien de professeurs feront des trucs de qualité dans ce domaine-là hein. Demandez-lui le temps qui passe pour fabriquer ces petits manuels, et je trouve que c'est génial, en plus, les manuels qu'il nous a montrés ce matin, puis ceux qu'il a fait. Certes, c'est remarquable, hein, c'est remarquable, mais combien de temps il faut y passer, et est-ce que tous les enseignants le feront? J'en suis pas certain. Donc, je crains beaucoup que ce ne soit un feu de paille, qui a l'intérêt de nous interroger sur la part respective de la connaissance et de l'entraînement. Ça, au moins, ça a cet intérêt-là. Et c'est vrai que ça repose la fonction des équilibres, travail à la maison, travail à l'école. Mais ça ne résout pas un problème de fond qui est, mais qu'est-ce qui se passe donc à la maison? Mais qu'est-ce qui se passe donc à la maison qui fait que ça fait la différence dans les résultats scolaires? Et là, j'avoue que pour l'instant, on est encore dans une boîte noire. Alors, il y a des gens qui ont commencé à le regarder d'un peu plus près. Je vous dis, on a des travaux de recherche, et surtout des thèses d'ailleurs, sur mais qu'est-ce qui se passe à la maison dans l'apprentissage. Alors, des jeunes qui passent des heures et des heures à suivre des élèves à la maison. Mais on a des connaissances très parcellaires sur qu'est-ce qui fait qu'à la maison, ça aide ou pas à apprendre et quelles sont les conditions qui font qu'on puisse apprendre. Ce n'est pas évident du tout. Hein. Oui. Tout à fait. Oui. 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 Tout à fait. Oui, mais tant mieux. Absolument. Oui. Moi, quand je parle d'autonomie et d'autorégulation, c'est de ça dont je parle. C'est vraiment monter des projets autour d'autonomiser les élèves dans leurs apprentissages. Et ça commence par l'utilisation de la permanence, du centre de documentation, en interaction avec les profs, dans un projet commun où c'est un projet de développement de l'autonomie dans l'apprentissage, et avec des accès, effectivement, où on leur donne presque des challenges d'apprentissage. Mais le problème que vous évoquez, à propos des MOOC en particulier dans l'enseignement supérieur, J'ai mis une, il y a une de mes étudiantes qui s'intéresse au MOOC et qui m'a dit je ne sais pas comment entrer dedans, etc. Qu'est-ce que je préfère? Je lui ai dit intéresse-toi aux abandons. Enfin, aux abandons. Intéresse-toi aux trajectoires des gens qui arrêtent. D'abord, d'où ils viennent, savoir ce qu'ils ont essayé de faire, et puis pourquoi ils ont abandonné. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça nous explique en creux qu'est-ce qui fait que ça réussit. Et quelques personnes que j'ai rencontrées qui les ont, qui les font et qui les réussissent, ils ont effectivement un besoin à un moment donné. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous repérez un besoin pour un loisir, pour une passion, pour quoi que ce soit, eh bien, vous pourrez mettre à profit toutes ces ressources-là. Mais si vous n'avez pas ce moteur-là au départ, ça ne servira à rien. Et c'est ça le problème. Or, nos élèves, et c'est peut-être ça où il faut arriver, c'est comment redonner l'envie d'apprendre aux élèves. Oui. Oui. Mais... Il ne faut pas l'empêcher. Il ne faut pas l'empêcher, mais il ne faut pas l'institutionnaliser. Pour moi, il ne faut pas l'institutionnaliser. Il faut le mettre... Et c'est donc qu'il faut que le monde scolaire prenne en compte ça. C'est-à-dire que le prof qui dit aux élèves, ben, vous pouvez continuer à aller voir ça. Ben, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé l'autre jour. J'animais une communauté de gens qui sont correspondantistes dans des unités d'enseignement supérieur. Et c'était le gars qui s'occupait du droit, l'enseignement du droit, à la fac. Il me dit, on est très très embêtés, parce que en première année de droit... Les étudiants vont sur le site de Bordeaux. Vous savez, il y a l'école de magistrature. Tous les cours sont là. Qu'est-ce qu'on fait en cours? Parce qu'ils ont découvert ça. Alors, ils sont en train de réfléchir. Ils vont se réunir, tous les enseignants, pour voir comment mettre en place une stratégie de cours. C'est même pas eux qui font les cours. Hein. Les cours sont disponibles. Ils disent, mais comment organiser le travail à l'université, dans les premières années, donc c'est des post-bac, comment organiser le travail pour que, justement, ils mettent à profit ces supports-là pour les apprendre. Et je pense que ça, c'est prometteur. Et je pense qu'avec nos enseignants, on peut tout à fait, et ils le font la plupart d'entre eux déjà. Combien de profs d'éco, en économie, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait, mais je pense qu'en histoire et en géo, ils le font aussi beaucoup. Combien vont piquer à droite, à gauche, des trucs qui existent comme ça? Alors, est-ce qu'ils vont prendre des trucs très aboutis sur le plan pédagogique ou pas? Je ne sais pas. Mais je sais qu'énormément d'enseignants vont chercher des trucs à droite, à gauche, pour eux-mêmes d'abord préparer leurs cours, et éventuellement pour dire à leurs élèves, prolonger. Et du coup, ça devient intéressant. Je ne crois pas à l'institutionnalisation forte de ça, je crois par contre à la mutualisation forte de ces ressources-là. Oui. C'est-à-dire ? Alors, sur les formations hybrides et les formations à distance, je suis extrêmement prudent. J'ai une conviction personnelle, d'expérience, hein, pour avoir accompagné plusieurs dispositifs de formation à distance en France et à l'étranger. Je pense qu'il est très dangereux qu'il y ait un écart trop grand entre ceux qui conçoivent les cours et ceux qui les réalisent, qui les mettent en œuvre. Par rapport à Jacques Rodet, qui s'occupe du tutorat en particulier, je ne suis pas complètement d'accord avec son approche, qui vise à séparer le concepteur du cours de celui qui accompagne. Je me suis trouvé dans des situations assez apocalyptiques où celui qui accompagnait devenait le médiateur entre le concepteur et les étudiants parce qu'il y avait des bugs dans le cours. Je me suis vu aussi dans des situations très délicates où finalement le cours, si vous voulez, n'était pas accompagnable parce que la personne qui avait le cahier des charges qui avait été fait en amont n'était pas bon. Nous, on a travaillé au cahier des charges, parce qu'on ne pouvait pas changer la structure. Mais moi, je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, Christine Vaufray, qui s'occupait du MOOC TIPA, me disait la même chose, je pense qu'il ne faut quand même pas trop éloigner le concepteur du cours de l'accompagnement. C'est toujours bon, parce que c'est un retour utilisateur nécessaire. Mettre trop de médiation entre les deux, mettre des tuteurs techniques, des tuteurs ci et des tuteurs ça, c'est dangereux. Moi, j'ai tendance à dire, on a une dominante. Quand on est formateur, on a une dominante. Maintenant, il ne faut surtout pas se couper des autres. Et ce que je craindrais beaucoup, c'est une taylorisation des métiers. il y aurait les concepteurs qui travaillent dans un coin, des machins comme ça. Au début du multimédia de formation, on était parti comme ça sur des grosses équipes avec chefs de projet, médiatiseurs, informaticiens, etc. Des équipes énormes. Et finalement, on s'est aperçu que ce n'était pas beaucoup plus efficace que d'avoir des petites équipes polyvalentes, je dis bien polyvalentes, mais qui se choisissaient une partie et qui produisaient. Téluc, la Téluc. Ah oui, mais la Téluc. Ah oui, mais la Téluc, ils ont des moyens, ils ont des sacrés moyens. Hein. Ils ont un technicien dans la salle à chaque cours.
Pour rebondir sur ce que le collègue disait, c'est qu'à un moment donné, les formateurs ont effectivement une dominante, une expertise, et que la problématique technique, quand on met en œuvre des choses, les bilans qui fait des livres de curriculum, une technicité qui est
oui.
grande, qui ne peut pas être. Accessible peut-être à tout le monde.
Tout à fait.
Ça demanderait un gap de formation qui serait trop important.
Et c'est pour ça qu'il faut travailler en équipe.
On va éloigner en fait des personnes qui ont une culture, qui ont quelque chose, vraiment une expertise à faire passer. On va les éloigner en fait de ces médias.
Mais c'est très dangereux d'isoler les gens. C'est très très dangereux d'isoler les gens des uns des autres. Parce que le danger, c'est que justement, il y a des ruptures. Et moi, c'est les ruptures que j'ai vues. Hein. C'est pour ça qu'effectivement, il peut y avoir des spécialisations. Mais la spécialisation ne doit pas être une rupture. C'est-à-dire, c'est forcément un travail d'équipe. S'il n'y a pas de travail d'équipe, ce n'est pas possible pour moi. Hein? Oui.
Pour rebondir, pour moi, le prof, aujourd'hui, dans le monde numérique, il veut deux choses. Il veut être humaniste comme au 19e siècle, il veut être artisan.
Oui.
Il doit prendre cette nouvelle branche numérique qui va lui permettre de fusionner les deux. Et si on distingue les choses en ayant trois secteurs et les gens ensuite qui prennent des cours et des fonds, c'est en gros le modèle actuel, les gens vont picorer sur le net. Et franchement, je sais par les stats de mes cibles, le nombre de gens et où ils téléchargent mes cours, c'est des cibles. Enfin, des fois, ça valorise mon ego, mais donc,
bah oui.
Ouais, super. Mais après, comment fait-il? Parce qu'en gros, ce qu'on peut télécharger de les ateliers, je ne vois pas très bien ce qu'on peut en faire si on ne discute pas.
Eh oui, eh oui.
Parce qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas du tout la scénarisation. Or, l'essentiel, en gros, moi je distribue les briques, maintenant chacun fait avec son ciment et vous construisez ce que vous voulez avec. Mais la plupart des gens qui téléchargent une ressource voudraient faire à l'identique ce que je fais, sans avoir pris la peine de dire bon alors, quel est le fil scénaristique que tu as mis derrière tout ça?
Mais vous retrouvez là, on retrouve là quelque chose qu'on connaissait bien, qui était dans les stages, il faut distribuer beaucoup de papiers, qu'on va très vite empiler dans son bureau et qu'on va laisser dormir après. Malheureusement. Et c'est là, c'est le passage entre la conception et la mise en œuvre, où là, il y a besoin d'une médiation. Vous vouliez poser une question, madame?
Oui, c'était à propos du numérique et du je sais.
Oui, je voulais en parler, puis j'ai oublié.
C'est quelque chose qui me semble très intéressant, mais très difficile à mener. Est-ce qu'il y a des solutions, des pistes, pour, en fin de compte, réutiliser ce que les élèves font à l'intérieur du cours, si on a proposé un jeu, ou à l'extérieur, si évidemment ils peuvent utiliser cette technique?
Alors, c'est un petit peu compliqué, parce que les jeux sérieux, c'est plusieurs choses en même temps. C'est des jeux sérieux ou des sérieux jeux, oui. Alors déjà. Et ensuite, c'est des produits tout finis qu'on prend ou des produits qu'on fabrique. Alors, et puis, après ça, il faut voir les niveaux. Moi, je pense que dans certains domaines, et en particulier, je pense que dans l'apprentissage professionnel, des disciplines professionnelles, je pense qu'un certain nombre de jeux sérieux sont extrêmement pertinents parce qu'ils confinent à la simulation et qu'ils permettent de tester sur machine ce qu'on ne peut pas tester en réel. Là-dessus, et avec l'aspect, alors, quand on dit, alors c'est pour ça que je dis jeu sérieux, c'est en fait, on utilise les processus de gamification, ce qu'on appelle de gamification, c'est-à-dire, on utilise quelques ressorts du jeu pour amener la personne à progresser, à maintenir son intérêt. Et en général, c'est pas la partie la plus fantaisiste qu'on utilise, c'est la partie la plus fondamentale sur la motivation, le maintien de la motivation, par la frustration, par l'énigme en particulier. Et ça, par contre, du coup, voilà quelque chose qui est transposable, c'est qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est l'énigme. C'est, alors, et on retrouve là les démarches de problématisation, les démarches d'investigation, on retrouve les objectifs obstacles chez Rabachelard, on retrouve cette théorie-là, ou Astolfi. C'est-à-dire, en fait, le mécanisme d'un jeu, c'est il faut résoudre une énigme. Et ça, par contre, on peut le travailler avec les élèves. Et pour ceux qui ont fait des défis lecture, c'est une forme minimale, mais c'est une forme de jeu. C'est une forme de jeu très, très minimaliste, mais qui a au moins l'avantage de fonctionner. Et surtout qui ne demande pas de moyens techniques. Parce que l'autre problème des jeux, et des jeux sérieux, c'est qu'ils sont tellement compliqués à fabriquer pour atteindre le niveau de qualité des jeux, qu'ils sont hors de prix des gens qui les conçoivent, par rapport aux jeux traditionnels. Un jeu traditionnel, c'est 10-15 millions d'euros. Vous n'amortirez jamais un jeu sérieux à ce prix-là. Jamais. Un jeu sérieux scolaire. Donc, il y a des jeux comme ça, ici ou là. Moi, je trouve que c'est très intéressant de les utiliser, mais il faut les utiliser vraiment à dose homéopathique, parce qu'ils ne sont pas très bons, il faut le dire. Ils ne sont pas très attrayants. Ils sont parfois un peu lents. Par contre, ça vaut la peine de travailler avec les élèves, mais d'une autre façon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher le jeu dans l'autonomie. Il faut chercher le jeu comme l'occasion de proposer des questions. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Ça permettra d'amorcer une conclusion. J'ai toujours pensé que cette histoire de problématisation, de mettre les élèves en questionnement, était un élément intéressant. Dans les années 80, j'avais accès à l'informatique dans mon établissement scolaire pendant qu'une partie des élèves étaient en stage. Et donc pour ma classe, j'avais la chance d'avoir les salles d'informatique pour moi. Donc je l'ai demandé, bien évidemment. Et à cette époque-là, je rêvais en particulier d'intelligence artificielle. Et je l'ai travaillé en français sur la grammaire. Et j'avais conçu un exercice qui était basé sur un truc que j'avais vu. Bon, c'est un peu spécial. Mais l'idée, c'était la reconnaissance formelle des formes de phrases complétives, relatives, conjonctives. Donc j'avais travaillé ça sur ce qu'on appelle les grammaires formelles, et grammaires formelles et transformationnelles. Et ça permettait de faire. Donc j'ai informatisé ça. Alors, bon, un, déjà, il faut développer le produit. Alors, deux, situation concrète. 8 machines, 32 élèves. A. 4 élèves par machine. Que fait la machine? La machine, elle guide le processus. Que font les élèves? Ils essayent de répondre aux énigmes que leur pose la machine. Alors, il y avait 4 énigmes, 4 niveaux. Le premier, c'était reconnaître les mots significatifs dans une phrase. Donc, il fallait discuter entre eux, prendre la décision, donner à l'ordinateur. L'ordinateur disait, là, tu t'es peut-être trompé. Il y a tout un système d'experts derrière. Après ça, c'était identifier dans une liste de phrases, classer des listes de phrases. Et puis, il y avait un troisième niveau, c'était fabriquer vos propres phrases et tester-les. J'ai été tranquille pendant 2 heures. Sauf pour les problèmes techniques qu'on a rencontrés, comme on en rencontre tout le temps. Mais c'était extraordinaire. Parce que, qu'est-ce qui se passait? C'est que les élèves étaient mis dans une situation d'énigme à résoudre, qu'ils étaient en collectif. Et ça, je pense que si les jeux peuvent marcher, c'est quand ils sont en collectif. Parce que du coup, c'est l'interaction entre les élèves qui devient très riche et qui leur permet vraiment... Alors, on tenait sur le co-apprentissage, sur ces trucs-là. Et là, moi, je pense que ça vaut la peine, surtout dans les jeux d'énigmes. Éviter les jeux du style Goldswin, je ne sais pas si vous avez connu ça dans le temps, où en fait, c'est des jeux du style EAO. C'est-à-dire que tu es un gentil dragon et tu dois aller trouver la gentille princesse. Bon. Et donc, pour faire, tu vas à droite, tu vas à gauche. Alors, tu vas à droite, bon. Alors, voilà, tu es arrivé à l'étape, tu vas rentrer dans la forêt. Mais pour rentrer dans la forêt, tu dois répondre aux questions. Et là, un QCM, deux QCM, trois QCM. C'est bien, tu as réussi, tu peux passer. Bon. C'était ça aussi du jeu. Il y a eu d'autres jeux. En géographie, il y avait eu un jeu assez amusant. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce jeu de cette... Où il y avait une énigme... il y avait une recherche... comment s'appelait ce jeu où il fallait aller dans le monde entier pour aller chercher des voleurs. Je ne sais pas si vous avez... Oui, c'est Diego, oui, quelque chose comme ça, voilà. Et ça, voilà, c'était des jeux où, en fait, on avait une énigme à résoudre, on avait à chercher des gens, il fallait trouver des indices. En fait, c'est une mécanique de jeu. Et on peut, alors, ce qui peut être intéressant là, c'est de la faire fabriquer aussi par les élèves, dans la mesure où on a les outils pour le fabriquer. Malheureusement, alors j'ai regardé un peu le produit qu'a mis récemment en ligne l'Académie de Versailles. Ils ont proposé un truc pour faire des jeux. J'ai pas trouvé ça génial. Et c'est très compliqué à mettre. Mais faire concevoir l'idée d'un jeu par des élèves, ça peut être intéressant de faire. Mais c'est très difficile techniquement. Techniquement, c'est... Parce qu'ils ont les références graphiques, ils ont les références ludiques. Et ça... Voilà. Et c'est trop beau. Alors, de temps en temps, on trouve des trucs. Par contre, ne négligez jamais une chose, c'est que l'utilisation même de jeux non pédagogiques peut être tout à fait intéressante. Mais oui, il y a des jeux tout à fait intéressants qui vont être faits dans d'autres milieux, dans les milieux professionnels. Et là, vous pouvez tout à fait y aller. Alors, je sais que des institutions comme l'UNESCO ou l'OCDE produisent parfois des jeux. Et là, ça vaut la peine. Mais oui, tout à fait. Et moi, je vous conseille vraiment d'être travailler, essayer de travailler dans le collectif. pas dans l'individuel. Essayez de, il faut le jeu, je pense, en milieu scolaire, ce qui est intéressant, c'est le jeu collectif accompagné. Voilà. Parce que l'interaction entre les élèves et la machine est nettement plus productive. Voilà.
On arrive bientôt au terme de notre journée de travail. Y a-t-il encore quelques questions qui prennent appui sur ce que Bruno de Gaucher a dit, ou éventuellement sur des choses qu'on a évoquées ce matin?
Je suis enseignant-chercheur, de temps en temps je fais des formations. J'enseigne déjà au quotidien. Merci. Ça fait 20 quelques années que je fais ça. Bon.
Je enverrai aux inspecteurs un compte rendu, des liens, etc. Ça serait bien qu'on puisse aussi évaluer la journée. J'essaierai d'envoyer un questionnaire fabriqué.